Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'animer le podcast One Shot sur Warhammer.
Le bricolage, c'est ça.
On va tester.
Parce que d'habitude, c'est pas un plaisir pour toi.
Un jeu incroyable. Ça me fait plaisir de tester Warhammer.
Sigma !
C'est quand même un jeu hyper essentiel.
Alors, dans les Warhammer, on joue des monarques qui sont embarqués dans une barque, justement, et qui doivent.
Mais attends, c'est pas une question de bricolage avec un marteau.
C'est... Voilà, c'est ça, là, un marteau de.
Marteau de guerre.
Ah non, ça va être le podcast régressif. Hein. Là.
Là, exactement.
Pas d'analyse de fond, pas de. On va juste célébrer une bonne vieille nostalgie. Moi, c'est le truc avec lequel j'ai.
Pas moi.
Ah oui, c'est vrai.
On n'avait pas d'ailleurs hésité à ne pas inviter Natacha parce que, enfin, je veux dire, jouer avec une fille à cette époque-là, on jouait pas avec des filles, quoi.
Si, on jouait avec des filles, mais on les faisait. Moi, j'ai fait fuir. Je suis pas très heureux de le dire, mais on a fait fuir une fois une fille d'une partie de. Et puis en général, c'était soit la copine de quelqu'un, soit.
Je me souviens du.
En même temps.
Je me souviens d'un truc écrit sur la base de Warhammer. C'était écrit l'équipement standard de la petite fille. Donc il y avait une robe et un couteau. Et ça, j'avais trouvé ça. C'est-à-dire que dans Warhammer,
ça, c'est le PNJ,
tout le monde a au moins une arme pour se battre.
On va
peut-être présenter aussi ceux qui sont là.
Donc,
Fabien Invine, c'est toi qui viens nous présenter Warhammer. Fabien, ça va la pêche,
oui.
Évidemment. Nous sommes avec Natacha, vous l'avez reconnu.
Salut.
Natacha, ça va. Nous sommes avec Adrien.
Le marteau et l'enclume.
Nous sommes avec Shadow. Shadow, ça va?
Ouais, très bien.
La pêche. Nous sommes également avec Max.
Oui, ça va.
Oui. Alors, voilà. Il y a des fans de Warhammer autour de cette table et c'est ça qui est bien. Il y a aussi des amatrices. Hein. Natacha est une novice. Ça va être génial. De voir la confrontation entre ces
alors,
deux.
Alors, Warhammer, qu'est-ce que c'est ?
Fabien.
Warhammer, c'est. Donc, on joue déjà la deuxième édition pour ceux qui se posent des questions. On discutera des mérites des différentes éditions, je vous propose, dans la suite du podcast. Alors, Natacha, Warhammer.
C'est moi.
Pourquoi ?
Oui, bonjour.
C'est un monde qui est, donc, à l'origine, à la fois un monde qui a été créé pour jouer des jeux de figurines. De Games Workshop, donc Warhammer jeu de bataille fantastique, et je crois que le jeu de rôle est sorti à peu près en même temps que ça dans les années peut-être un peu après ouais, mais enfin bon, c'est dans les temps obscurs dont il y a fort fort longtemps
quand Nagash était encore en vie, quoi.
Voilà,
que seules les longues barbes se souviennent.
Et la particularité de ce jeu, c'est que c'est un peu un fourre-tout de fantasy avec quelques
j'ai envie de faire un Mégatroll, mais
avec
comme tous les jeux de rôle, c'est ça,
comme tous les jeux de rôle traditionnels. Ouais.
Donc il y a des orques, des elfes, des nains qui se détestent,
des samouraïs,
des hommes rats, c'est l'originalité.
Oui, alors en fait l'empire sont donc plus inspiré du Saint Empire romain germanique.
Et la Bretonie.
Et la Bretonie, c'est plus effectivement
France Angleterre des guerres de 100 ans.
Non, c'est plus
la quête du Graal et compagnie.
Quête du Graal, voilà. Alors que l'empire dans lequel on va jouer, parce que bon, on reste dans le nostalgique. Hein. Aujourd'hui, on n'y neuf pas. Ouais. L'empire, c'est la Renaissance. Donc on a des armes à feu, on a
des culottes bouffantes.
Des culottes bouffantes, tout à fait.
Des fraises.
On a quelques chevaliers encore en caparaçon.
Des arquebuses.
On a aussi. Mais comme c'est de la fantasy, on a aussi.
C'est quoi un caparaçon?
Carapaçon.
Non,
caparaçon.
Caparaçon. C'est l'armure des chevaux.
Ok, c'est un mot de plus que je pense complètement au what the fuck.
Voilà, et que j'ai appris uniquement parce que j'ai joué à Warhammer Fantasy Battle.
C'est quoi, c'est caparaçon?
Ouais, alors qu'on pensait à carapaçon pour la carapace, mais non, c'est caparaçon.
Caparaçon, ouais, désolé. Et donc on a aussi des mages
pour les canassons
qui sont regroupés dans des collèges de magie. Il y a 8 collèges de magie en fonction des
Poudlard,
des 8 c'est
Chini, compagnie.
Et du
collège,
nord
collège au sens université,
oui c'est ça,
okay.
Alors collège. Il y a donc des nains qui vivent dans les montagnes, qui ont eu une guerre il y a fort longtemps contre des elfes. Nains qui, à mon avis d'ailleurs, ont beaucoup inspiré la vision des nains de Peter Jackson.
Oui, à fond.
Alors, parce qu'en fait, les nains chez Tolkien, bah, tu les vois, c'est des musiciens, c'est des marchands. Alors que là, bon, ils ont un peu plus le qu'est-ce qu'ils disaient ? Le syndrome gros nain balourd. Je sais plus qui
le syndrome nain balourd.
Voilà, c'est ça. Il y a des orques avec des gobelins et des trolls qui attaquent sous le monde.
Ouais, ce sont des champignons.
Il y a des morts vivants. Oui, tout à fait. Qui sont des champignons pour éviter d'avoir que Games Workshop ait à dire qu'il y a des femmes orques et donc pour éviter d'avoir à dire qu'ils ont une sexualité. Comme
par
ça,
contre, pour les nains, ils n'ont jamais vraiment parlé de la sexualité.
C'est vrai.
Personne n'en parle jamais.
Il y a des Et au, surtout, surtout quand même, ce qui est important, le, l'élément qui donc n'est pas vraiment un truc de Tolkien et qui est plus vaguement inspiré de Moorcock, c'est ce qu'on appelle le chaos, qui est une force qui vient du Nord, qui est une force dite corruptrice, qui en fait détourne les gentils humains de la voie droite, et qui...
Ils les emmènent vers la gauche.
C'est plutôt leurs sentiments à eux qui nourrissent le chaos, quoi.
C'est même pire que ça, en fait. C'est, ben, je pense que ça va au-delà de notion de bien et de mal.
Et ça l'est...
C'est un truc qui est complètement... corrupteur, mais pas au sens mauvais, au sens de...
si les orques et les gobelins sont du côté du mal, le chaos est au-delà, c'est ça?
Ouais, tu peux voir les choses comme ça. C'est pas... Vous êtes déjà en train d'analyser un peu trop, hein, mon ami. Le chaos, c'est méchant, comme les morts vivants, comme les orques, voilà.
Et Shadow, je te rappelle qu'on est en podcast, t'as un micro, tu le prends pour parler, sinon t'en peux pas.
Le chaos a tendance à faire muter les gens aussi. Donc il y a des gens, enfin des mutants.
Je pense que okay, là, donc c'est le rectorat de Versailles. Non, c'est pas ça.
Je pense que là, on peut voir une métaphore de l'âme humaine.
Selon
Bachelard.
Je vous interdis de réfléchir, vous êtes Warhammer, c'est trop tard.
Les types caricatures à travers Warhammer, vous êtes trop forts.
Et donc il y a des sorciers du chaos, il y a des guerriers du chaos, il y a des démons du chaos. T'as des trolls du chaos qui sont des trolls qui ont muté. T'as des ogres du chaos. T'as des et après il y a des trucs un peu plus exotiques du genre des nains du chaos, des hommes lézards, des elfes, des elfes noirs, des ogres aussi, enfin des nations ogres, des tombes,
plusieurs races de, enfin plusieurs nations de morts-vivants, des morts-vivants squelettiques, voilà. Des morts-vivants squelettiques
t'es censé avoir, des asiatiques qui ont jamais été développés, genre
oui,
t'as Nippon
et
Katai,
et on sait pas ce que c'est,
ça a jamais été développé.
À l'époque la mode japonaise n'était pas encore là, donc
il y a quatre dieux du chaos aussi.
Oui,
Nurgle, Tinch.
Juste une question, quand quelqu'un est du chaos, genre, est-ce qu'on peut...
Non,
on le brûle.
Alors un truc absolument infect en...
Mais vous avez même pas écouté ma question. Non,
on le brûle.
On a compris, on le brûle. De quoi tu
mais
parles?
C'est pas ça. C'est, est-ce que il est est-ce que un nain du chaos au milieu des nains...
Non,
il est reconnaissable.
Non mais oui, il est muté.
Déjà, ils ont pas la même coupe de barbe.
Exactement.
Les nains du chaos, ils ont un look babylonien.
Voilà. Alors que les autres, ils ont un look de...
C'est des armées que tu peins, c'est des figurines, donc forcément, tu...
C'est pas un pas pareil. Maniqué un.
Les elfes.
Il peut y avoir un traître à un moment donné qui s'infiltre ou un truc du genre, tu vois.
Le chaos est corrupteur, donc oui, complètement un disciple de Slaanesh, ça n'a pas forcément.
Oui, alors ce qui est vrai,
quoi.
C'est qu'il existe des cultes du chaos répartis dans l'Empire qui vénèrent.
Les gens qui vont dans les réunions de ces cultes, ils ont tous des grandes toges sombres au-dessus de la tête, tu les reconnais dans la rue.
Ils vérifient que, voilà.
J'ai jamais entendu un podcast pareil.
Les disciples de Khorne, ils aiment le sang, la guerre et les crânes et la violence. Les disciples de Nurgle, ils aiment le caca et le
ils veulent pas mourir, en fait.
La pestilence.
Dans 30 secondes, j'ai oublié tous les noms, hein. Enfin, je vous préviens.
Ah non,
les disciples de Slaanesh, ils aiment le cul.
Ouais,
le cul.
Et les mutations foireuses. Ouais. Genre avoir des pinces à la place des mains.
Tout le monde
est. En fait, le hentai avec tentacules, c'est Slaanesh.
Et Zench, c'est les Cylons. Ils ont un plan.
Ils ont des plumes et plein de couleurs.
Voilà. Oui, ouais. Mais en gros, c'est ceux qui. C'est l'outil du MJ. Le MJ, quand il y a un truc, il fait ouais, non, mais en fait, tout ça, c'était un plan de Zench.
D'accord. Vous en parlez avec un enthousiasme délirant. Vous êtes complètement barjolé.
Moi, si tu veux, c'est le jeu avec lequel j'ai commencé. J'ai passé 4 ans dessus. Quand je parle de mes expériences de jeux de rôle tradis, c'est surtout souvent avec ça que je parle. Mon MJ était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, mais il nous faisait des trucs complètement fous. Donc, tu sais, la phrase de mon MJ, il était extraordinaire. C'est à Thomas que je parle et je pense, et d'ailleurs je fais une petite dédicace à Sylvain et Thomas qui nous écoutent certainement, et avec lesquels j'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Il y a plein d'autres, hein, Nicolas, José, Angélique, bonjour de très loin.
Angélique, c'est celle qui a fui?
Non, je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle que j'avais réussi à faire fuir, et c'était sur Zombie, c'était pas sur Warhammer. Que dire d'autre sur Warhammer? Alors, je vais quand même vous faire plutôt ma version à moi de Warhammer.
On a que les versions. Là, on parle de Warhammer Battle pour l'instant.
Oui.
Enfin, alors, ça parle des deux, mais...
En fait, une des particularités de Warhammer, c'est que l'univers, au fur et à mesure des versions et avec le temps, et également avec les évolutions du jeu de figurines, a dévié de la low fantasy vers la high fantasy, très clairement. C'est-à-dire qu'au début, les tout premiers, tu croisais pas très souvent un Morbac, il y avait peu de magie, il y a toujours eu un côté un peu, comment dire autrement, low fantasy. Et au début, c'était relativement cohérent de jouer aussi, au départ, des personnages avec un bas niveau. Ouais. Une des particularités de Warhammer, c'est que quand tu commences, tu joues vraiment une sous-merde. Tu joues vraiment un mec...
Tu vas rêver, hein.
T'as à peine une chance sur quatre de réussir quoi que tu
et fasses. Après avoir fait 200 parties, après avoir fait tout un tas de carrières de foufou, t'as encore une chance sur trois de... Quand t'es expert dans un truc, t'as encore une chance sur trois de te rater dans...
Et sinon, à quel moment vous m'en faites la pub?
Parce que c'est rigolo. On arrête pas.
Tu peux être un chasseur de rats.
Alors, l'humeur de réverbère.
T'as pas à passer le bac, quoi, quand t'es chasseur de rats. T'es sûr de réussir ta vie.
Alors, il y a quelques éléments quand même que je vais vous donner pour orienter un peu les choses. Donc, moi, je joue plutôt dans une version relativement sombre. C'est-à-dire considérant que les sorciers, la plupart des gens s'en méfient comme de la peste. Parce que effectivement, alors ce qui est dans les règles en plus justifié, parce qu'ils peuvent exploser à tout moment, créer des portails du chaos.
Oui.
Ils utilisent les vents du chaos pour qu'ils purifient, pour en faire.
Je vois que tu fais de la magie, t'as une chance d'avoir genre une amnésie collective, une pluie de cendre,
des mutations,
une table aléatoire de 3000 pages.
Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux avoir un scénar complet qui
tout
pète à cause de ça. Quoi.
On va tirer tous vos personnages complètement aléatoirement, promis.
Ok, très bien. Oh là, c'est pour jouer by the book. Hein, enfin.
Ah ben ça.
Ah ben ça.
Et alors, on va. Alors, j'ai une question. On va tous commencer dans une taverne, dans une auberge ou...
Non, pas loin. Mais...
Pas loin d'une auberge.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire?
C'est un système avec des 100 compétences carac.
Relativement sombre. Oui, alors effectivement, c'est un système. Tu peux voir ça comme ça, compétences carac, oui.
Donc c'est un système où je vais te redemander tout le temps qu'est-ce qu'il faut que je lance, à quel moment, comment est-ce que calculer.
C'est des pourcentages.
Voilà, je t'aurais prévenu.
Warhammer, le système est très simple, tu lances les dés et tu dis j'ai raté. c'est à peu près comme ça.
En fait, pour bien se rendre compte, un combat à Warhammer. En fait, moi j'ai surtout en tête un combat à Dark Heresy, mais c'est pareil, c'est le même, enfin c'est les mêmes stats. Hein.
Tout à fait. Non, à Dark Heresy, tu fais beaucoup de dégâts. Ouais, à Warhammer,
non.
tu peux taper sur un mec.
À Dark Heresy, tu fais pas beaucoup de dégâts.
Ouais, c'est ça.
Les mêmes stats. Et il y a des combats qui durent, genre, je pense un quart d'heure, où les gens jettent les dés, font je rate. Je rate. Ah, toi aussi. Ah, je blesse. Ah, oh mon dieu. Ça
alors,
change rien.
Dark Heresy, je peux pas trop. J'ai lu, mais j'ai jamais.
Moi, je trouve que ça va plus vite, Dark Heresy. Assez rapidement, t'as des armes qui font du dégât quand même.
Non, ouais, restons sur le.
Pardon.
Stop. Dark Heresy, c'est beaucoup trop moderne. On reste Warhammer.
Voilà, quand t'es à Warhammer, t'as des trucs qui font genre 1d10-1.
Je considère que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que des Skaven. Vous ne connaissez pas
le chaos, c'est quelque chose.
Ouais, les Skaven, c'est un peu comme les ninjas L5R, quoi. C'est le faux secret.
Attends, mais moi, je sais ce que c'est, voilà.
Oui, désolé.
Les Skaven n'existent pas.
Il y a, voilà, tout ce qui est les dieux du chaos. Il y a plein de choses en fait que les. En fait, c'est des rumeurs au loin, tu vois. Enfin.
Pourquoi tu souris, Shadow, là? T'es mort de rire, toi.
C'est pas ta version à toi, Warhammer?
Mais si, mais j'ai même pas besoin de parler. Vous êtes dans ma tête.
Ah oui, il y a une culture. Il y a une culture Warhammer.
Ah, il y a une culture Warhammer, c'est clair. Et là, on sent bien que c'est important. Hein. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de la question en 15 secondes. Vous avez présenté.
C'est un jeu de.
Ah, ce qui est l'auteur.
C'est une bonne question.
Voilà. De licence.
C'est une licence, mais conception et rédaction, Chris Pramas.
Merci, Chris Pramas.
Créateurs originaux de Warhammer JDR, Jim Brahma, Graham Davis, Phil Gallagher, qui sont. Graham Davis et Phil Gallagher, je les ai souvent lus dans White Dwarf.
Gallagher, c'est un des mecs d'Oasis, c'est ça?
Peut-être. Non. Richard Halliwell et Eric Presley.
Halliwell,
c'est
le frère de. Elvis.
Gallagher comme Gallagher. Quoi. Elvis
Presley. Ceux qui lisaient.
Pas de blague sur les noms, je crois que c'est pas poli.
Alors attends, quand même.
Gallagher comme Gallagher.
Version française, il y a peut-être des noms qui vont vous dire quelque chose. Mathieu Saint-Toux. Igor Poulouchine.
Oh, Igor! C'est l'auteur de Chan.
Bah ouais. Ah ouais. Excellent.
Carrément.
Ah bah voilà. cartographie additionnelle, traduction. Nathalie Huet, c'est une super traductrice. J'avais lu pas mal de. Parce que, évidemment,
j'ai fait de l'escrime de spectacle avec cette dame.
Ah, excellent.
Attendez, on va lire tous les noms et puis se souvenir de tous les
souvenirs. Julien Drouet aussi.
Ah, oui, bien sûr, Julien Drouet.
Dominique Lac. Je connais pas les autres, Mathieu Saint-Tour, Michael Croix.
Michael Larbi, ah ouais, c'est non. Marrant ça.
Non. Qui est-ce qui est dans les remerciements?
Quel larbin. J'aurais jamais dû poser cette question.
tu connais Fabien et les auteurs, et il faut toujours qu'il cite tout, quoi. Il va te citer les noms, les dates de naissance.
Et en plus, je crois que j'ai jamais lu cette page. Je connais
la bibliographie, Fabien.
Alors, remercie.
Qui ils ont fait la thèse?
Steve Kenson, Nicole.
Après, tu nous feras les index des illustrations.
Ah, c'est ça.
Coupez. Bon, allez, c'est parti, on joue.
Bon, allez, au boulot.
Bon, fin de la partie de Warhammer. Chacun d'entre vous va s'asseoir autour de la table. Natacha, Fabien, voilà, tout le monde est installé, tout le monde est prêt.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette partie de Warhammer?
On a beaucoup ri, on a eu des moments nostalgiques.
On a été racistes et antisémites.
Un peu, ouais.
Pas tant que ça.
Non, pas tant que ça.
C'est faux.
On a ri des clichés qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a pas fait.
Alors,
on a créé des persos en aléatoire, comme 4 heures, et on a dû bien passer la moitié du temps à créer les persos.
Je confirme.
Et du coup, Natacha a passé la moitié du temps à s'amuser.
C'est ça.
Donc, on a tout tiré complètement au dé à l'ancienne. La seule chose qu'ils pouvaient choisir, c'était choisir la race, comme c'est suggéré.
Et le don du machin.
Le don du machin.
C'est le truc qu'on a un 11 dans une carac qu'on choisit.
Ah oui, non, le don de Chalia, ça fait partie des règles. Tu peux choisir effectivement.
Oui, mais c'est un truc qu'on choisit.
Ok, ouais. La miséricorde de Chalia.
Je sais plus si c'est distinctif. En principe, dans les règles, il faut les tirer ou pas.
Alors, en principe, je crois qu'il ne t'impose pas de les faire.
Voilà, mais du coup, la table l'a imposé. Donc, bon, voilà. Merci beaucoup, la table.
Voilà, donc effectivement, on avait deux personnes avec des marques de vérole. On avait une personne avec un poireau. Enfin, donc un poireau, un.
Ouais.
Donc, on aura compris, le personnage de Maxime était un.
Nain.
Voilà.
Et un nain battleur, jonglé avec des haches sur des poneys.
Authentique. Et les trois autres persos étaient des humains.
Ça m'a fatigué parce que j'ai dû faire des choix à la crève perso et c'était dur.
Attends, t'étais un nain quoi?
Battleur.
Battleur. Tu sais, c'est un jongleur quoi.
Un mec qui est dans un cirque et je pourrais être un clown.
T'étais la première lame du tarot le plus petit.
Voilà.
C'est ça, la première lame du tarot.
C'était un 0,5.
Et c'était chiant. Parce que moi, je m'attendais à avoir juste ma carrière en mode vas-y, fais-moi des compétences, des talents. Et j'avais des choix par milliers, parmi 50
trucs.
Des compétences artistiques qui serviraient à rien de toute façon. Et pourtant, j'étais jeune, léger, et un impact cliché. Mm-hmm. Je me suis senti obligé de le jouer en cliché. C'était horrible.
Et t'as fini comme guerrier des tunnels, comme tous les nains.
Ouais, j'ai fini avec une hache et un bouclier, quoi.
Comment t'expliques ça?
Bah, parce que le nain, en fait, de base, il commence avec une capacité de combat de monstrueuse, en faisant le pire jet possible, c'est-à-dire double 1. Je suis quand même à 32, c'est-à-dire mieux que la moyenne des humains.
D'accord, ouais. Ouais, donc
voilà,
du coup,
donc de base, même
à un donné, faut
génétiquement, un nain, il se débrouille bien avec une arme, quoi.
Faut arrêter de jongler, puis il faut y aller.
Un nain jongleur, il donne des coups de boule avant tout. Hein,
voilà, et j'étais super agile pour
des
un nain.
De balle.
Des coups de balle, c'est ça.
Super
voilà.
Agile.
Natacha avait un personnage qui était relativement...
Je peux juste dire mon nom?
Ah oui, parce qu'on a tiré les noms avec le supplément qui est dans le...
Zara Green, Zakan Finason... Oda Grunt d'auteur.
Voilà. Et vous avez une fois des noms en K là et en R.
Il y avait beaucoup de G.
Effectivement, Natacha avait un personnage relativement utile puisqu'elle a une
prononciation.
Oui, alors c'est ça. Donc vous reprécisez qu'on a passé 2 heures à créer le personnage. Donc effectivement, donc pendant 2 heures. Enfin, pendant 1h50, je me suis amusée, jusqu'à 10 minutes de la fin, où on me dit « Vas-y, tire ton poids au dé. » Donc, je fais 86 kilos pour 1m67. Merci beaucoup pour l'indice des masses corporelles. Et toute la table dit « Ah, si, il faut que je tire un signe distinctif. » Et donc, je finis avec des marques de vérole. Super.
Moi, j'ai pas obligé les signes de distinctifs. Hein.
Ah oui, d'accord, tu t'amuses pendant... Oui.
Non, ce qui est important à noter, c'est quand même Natacha avait peut-être le seul... Enfin, non, un des seuls personnages qui, sur le papier... ressemble à quelque chose, quoi. Elle avait une grosse capacité de combat, elle avait une
bonne armure,
pas dégueu,
elle avait deux attaques.
Et ouais, ça, les mercenaires. Et mercenaires, c'est une très bonne classe de début.
Moi, je constate surtout que Natacha est extrêmement superficielle parce que dès que son perso est gros, elle s'amuse plus, quoi.
Mais je suis une midinette, oui, vous le savez.
Je veux dire, le maillot code de maille, elle peut pas l'enfiler, quoi.
Non, mais en plus, le dessin, l'illustration, voilà, donc fétichisme de l'objet, hein, je suis désolée, voilà, l'illustration mercenaire était vachement classe, c'était une nana, en plus, ça tombe bien.
Mais tu peux être classe et être gros, hein, je veux dire. Ouais, bah,
86 kilos en muscle, le muscle, ça pèse beaucoup plus lourd que le gras. 86 kilos de muscle, ça arrive.
Disons qu'elle elle se faisait d'elle une autre image.
Voilà. C'est ça.
Moi, je l'imagine.
1m30.
Je l'ai pas imaginé
gosse en demi-seconde. Ton indice de masse corporelle ne détermine pas ta valeur.
Non, ce n'est pas un indice de masse corporelle. C'est une surface de câlin. Tu te souviens?
Oui.
Moi, je l'ai jamais imaginé gros, ton personnage.
Enfin, bon.
Bah, il faisait quand même partie des personnages qui passaient pas dans le
trou. On devrait arrêter la grossophobie et puis passer à un autre, un autre perso.
Carrément. Alors, Shadow. Tu meurs d'envie.
Shadow,
je pense
que c'était le deuxième perso qui ressemblait à quelque chose en fait.
Ah, voilà, bon,
en fait, Natacha a tiré son perso avant tout le monde et du coup on se disait ah là, de la chance, mercenaire quand même. Parce que nous on savait ce qu'on pouvait avoir.
Oui, c'est ça. On les attendait.
Nous on les connaît,
les
classes.
De rats, ouais.
Donc quand on l'a vu mercenaire, on bavait tous un peu. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir Donc Maxime tire son personnage, nain, battleur. Bon, déjà on commençait à le charrier dans ses choix, on lui disait mais vas-y, prends le truc complètement pourri. Enfin voilà, il avait des choix et à chaque fois on essayait de l'inciter à faire des choix.
Expression artistique, acrobate et jongleur, métier forgeron. Je maîtrise les armes de jet, je peux lancer des haches de merde.
Ah voilà, on essaie de le pousser dans des choix stupides par rapport à son perso. Enfin, on voulait pas qu'il s'optimise, quoi. Et quand c'est arrivé à moi, j'ai eu chasseur.
Alors là, déjà,
c'est pas mal aussi.
Qui est pas dégueu. Ouais. Et moi, j'ai pas eu le cran de pas optimiser, quoi.
Et pourtant, pour chaque choix, je crois qu'on t'a tous
mais c'est
dit
ça.
De prendre le truc non. Enfin,
voilà,
non,
le truc qui servait à rien. Et moi, non.
Parce qu'après tout, tester Warhammer, c'est aussi tester autre chose que ce qu'on a toujours joué. C'est-à-dire en optimisant.
Je suis faible. Ouais. Je n'ai pas réussi.
Oui, mais en même temps.
Je crois que le naturel a repris.
Mais c'est vrai que parfois, il y a certains.
Je trouve ça important parce que vous jouez en one shot là. C'est facile de plaisanter. Mais il faut quand même se mettre dans les conditions et dans l'idée que ce jeu
mais
est quand même fait pour faire des campagnes.
Mais je me souviens que quand on créait les persos, on avait vraiment
bah,
la sueur au front.
Ah ouais.
Parce que par exemple, tu avais des choix, il fallait vraiment être. Si tu voulais être que ton perso soit efficace et que tu n'aies pas à attendre. Par exemple, tu as un choix entre camouflage rural ou tireur d'élite pour le chasseur. Ouais. Camouflage rural, ça donne un bonus quand tu dois te planquer dans des forêts ou dans des campagnes. D'accord. Ouais. Tireur d'élite, c'est plus 10, ça t'a cité.
Tout le temps, quoi.
Ça veut dire que c'est 200 points d'XP, quoi. Enfin, parce que les points d'XP, c'est plus 5% pour les caracs. Donc,
ouais, ça, ce qui est choquant, parce que moi, j'avais joué à la version 1 où c'était 100 points par tranche de 10 à
oui,
augmenter.
Oui, tout à fait.
Là, mais c'était pas les mêmes mécaniques. Donc,
Si, c'était la même chose. Hein. Peu de choses près, c'était la même chose, hein, franchement.
Donc, si tu veux, si tu connais pas les règles et que tu prends camouflage rural.
Ah bah tu l'as dans l'os profond, quoi.
Pareil, la différence entre dur à cuire ou maîtrise arc long, alors que ta dotation principale, ton arme principale, c'est arc long.
C'est-à-dire
que tu as une arme, mais...
C'est comme si tu tirais carrière avocat et puis tu avais le choix entre jouer de la musique ou connaître le droit.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu
c'est ça.
Quoi. Enfin...
Et c'est pas inutile, dur à cuire, hein, je veux dire.
Ouais,
mais arc long, il faut savoir le prendre, quoi. Donc,
chasseur sans arc.
Et je me souviens de tous les... Chaque fois que tu créais ton perso, même quand tu dépensais tes points d'XP, parfois tu étais là. Et après, tu disais merde, je regrette. Surtout que, petite anecdote, parce qu'après tout, on est là pour faire de la nostalgie.
Fabien.
Mon MJ était quelqu'un qui ne donnait que 75 points d'XP par scénario.
C'est très peu.
Parce que tu n'obtiens une progression, donc un plus 10%, on jouait encore la première à cette époque, quand tu obtiens 100 points d'XP. Ce qui fait que nous, tu vois ce que je veux dire,
ouais,
au bout de deux parties, on avait 150 points d'XP, quoi. Donc vraiment, c'était... Et alors lui, il le justifiait parce qu'il avait une approche qui d'ailleurs est, me semble-t-il, plutôt intéressante pour Hammer, qui est de dire, je veux un univers réaliste. C'est-à-dire que lui, il avait un canon esthétique très fort dans la tête, donc vraiment une approche 100% simulationniste. Mm-hmm. Et il avait un univers qui était très 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 précis. Enfin, pour le coup, il a développé sa propre région à fond. Donc si tu veux... Et donc pour lui, on ne pouvait pas gagner d'XP aussi facilement parce que
C'était pas crédible, quoi.
Voilà, les personnages n'étaient pas des, étaient pas exactement
sans
des
parler
héros.
De réalisme, tu vois, voilà. Juste crédibilité, quoi.
C'est ça. Et donc, par exemple, et alors, enfin, je raconte souvent ça, mais il avait fait des trucs complètement fous, du genre faire des cartes de randonnée en fait de certaines régions. C'est-à-dire que tu pouvais dire, bon voilà, à 100 mètres devant vous, il y a un tas de bois, la courbe, la route fait une courbe en U. Il avait la généalogie de tous les aubergistes, chaque personnage que tu pouvais rencontrer. Enfin bon, des trucs de dingue. Il pouvait t'expliquer d'où venait la famille régnante de l'endroit. Il pouvait t'expliquer leur nom.
On va aller voir le docteur, Fabien.
Il avait créé une carte des environs. Il pouvait te dire, alors là, il y a un temple dédié à mort.
Tu fais le malin, toi, avec sens exologie.
Le gros,
ta gueule.
Le gros temple de... Non, mais c'est... je pense que il me latte.
Il aurait dû sortir Warhammer Exalogie, je pense. Hein.
Ouais, non, mais il a fait des maquettes aussi. Il a fait des figurines. Parce
mais
qu'on
c'est pour ces gens-là qui se sont passionnés pour Warhammer, il y avait pas un Games Workshop ne proposait pas à un moment donné d'envoyer ses créations. C'est
alors lui, il a été en plus, il a travaillé chez Games.
Ah ouais, d'accord.
Et voilà. Donc il pouvait présenter son armée. Il a fait, enfin, je pense qu'il a une partie de
sa vie. Ouais.
De sa vie où il s'est beaucoup amusé justement parce qu'il pouvait créer, enfin si tu veux, son métier finalement c'était de créer des champs de bataille, des super figurines, et vraiment il s'est éclaté.
D'ailleurs tiens, j'en profite que tu parles de champs de bataille et tout ça pour dire que justement le mot campagne en jeu de rôle, quand on dit faire des campagnes, ça vient de là, parce qu'à l'époque le jeu de rôle n'était qu'un wargame.
Oui, parce qu'en fait ça vient de là en latin.
Était un war. De quoi ?
Campagne, étymologiquement, campagne, c'est d'abord la campagne militaire.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ouais. Et ah ouais, d'accord, même quand on parle de la campagne dehors.
Oui, oui.
À l'origine,
ouais. Ah, la vache.
Le jeu de rôle était encore un wargame, et donc quand on faisait plusieurs scénarios de suite, eh bien on faisait des campagnes militaires, effectivement, et le nom est resté.
Je me suis un peu perdu dans tout ça.
Je voudrais passer la parole à Maxime qui l'a demandé avant de s'endormir sur la table. Non, d'accord, ok.
On venait de terminer le
jeu. Je voulais juste dire que Games Workshop, c'était des cons.
C'est gratuit, ça.
Ok, alors ça, il va falloir que tu argumentes. Pourquoi tu penses ça?
Parce qu'ils esclavagisent leurs employés, ils les traitent comme des grosses merdes, ils les jartent sans genre leur demander leur avis, qu'ils ont pris toutes les décisions les plus connes possibles et imaginables pour auto-couler leur boîte au fur et à mesure alors qu'ils avaient de l'or dans les mains.
D'accord, ok. Ouais.
Genre, ça c'est un avis que j'entends beaucoup. Hein. T'as Warcraft qui arrive et qui leur propose d'utiliser de leur payer des droits pour faire de leur univers un MMO et qui disent non, on va faire le nôtre. Et qui, du coup, laisse WoW se faire alors que ça aurait pu être Warhammer Online. Mmh. Voilà. Qui ensuite décide de sortir Warhammer Online un an trop tôt alors que tous les bêta-testeurs dont je faisais partie leur disent « Attendez, il manque la moitié du contenu, vous pouvez pas sortir ça maintenant. » Qu'ils avaient, encore une fois, de l'or dans les mains qu'ils coulent. Qui ont un super wargame et qui décident de changer leur cible et de dire en fait maintenant notre cible c'est les gamins de 9 ans dont la grand-mère leur paye des figurines, du coup on va continuer à ressortir des codex le plus en plus déséquilibrés pour vendre des figurines au nouveau alors qu'on a encore une fois de l'or dans les mains. Bref, c'est une bande de gros cons. Ou alors les financiers qui sont là-dedans, c'est des gros cons. Et ils m'ont fait arrêter.
Ils connaissent pas leurs produits.
Ou alors, ils connaissent juste pas leurs produits. Ils ont jamais encouragé le tournoi.
Ou alors, c'est pas des financiers à la base. Comme c'est pas, ils connaissent pas leurs
produits. Non.
Si, à la tête d'une boîte comme ça, qui
est en bourse, ils sont entrés en bourse,
c'était une catastrophe. Ils recrutent des commerciaux. Sauf que c'est des commerciaux qui, sans doute, ne connaissent pas le milieu. Enfin, là, on parle peut-être. Très grossièrement, c'est peut-être pas vrai, mais.
Je sais pas, mais c'est l'impression que ça donne. Hein.
Alors,
c'est que...
moi, sans faire.
Shadow, toi qui. Juste. Ouais.
Tout ce que dit Maxime.
En fait, si tu peux soyez
vrai,
pendant
hein,
que Maxime parle.
Hein, les choix qu'ils ont fait étaient.
Vu que toi, tu t'occupes d'histoire.
Moi, sans faire dans l'insulte ou bien dans les estimations hasardeuses. Attends, laisse-moi terminer. Sans faire dans l'insulte ou les estimations hasardeuses, moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que Age of Sigmar, donc la dernière version de Warhammer, est, je trouve, très regrettable en termes d'univers. Parce que, très clairement, ce que je disais tout à l'heure, ils ont voulu passer un univers 100% high fantasy. Ouais. Et alors qu'ils ont... Et donc, en fait, ils ont cassé la continuité. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ah, en fait, le monde disparaît, puis on en recrée un nouveau. Et, tu perds un peu. Alors qu'ils avaient moyen de dire, par exemple, ben voilà, il y a l'invasion du chaos, la magie est partout, donc il y a des créatures de plus en plus puissantes, y compris chez les gentils. Ce qui justifie notre choix de faire de la high fantasy, sans casser tout ce qu'ils avaient jusque-là. Le jeu aussi est devenu un jeu beaucoup plus par escarmouche, qui ressemble beaucoup plus à ce à quoi ressemblait Confrontation à une époque. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub d'un excellent jeu de bataille qui s'appelle King of War, par Mantic, qui en fait d'une certaine manière cherche
Mantic, c'est quoi?
Mantic, M-A-N-T-I-C, d'accord. Qui cherche tout à fait à remplacer ce qu'était Warhammer à la grande époque, qui est fait par des anciens
c'est
de Warhammer.
D'édition.
Comme Alessio,
Games Workshop.
Cavator et ouais.
Parlez-en un peu. C'est, parlez-en, c'est très intéressant.
Où tu peux jouer en fait.
Sais ce que c'est, mais parlez-en.
Tu peux jouer tout à fait les anciennes armées. C'est dans un autre univers, mais qui ressemble beaucoup à celui de Warhammer. Voilà. Que tu peux jouer avec tes anciennes armées. Moi, j'ai repris des.
On réutilise les figurines achetées par Warhammer et surtout, pour les mettre dans un autre jeu.
En fait, on sent vraiment l'amoureux du jeu de figurines.
Alors qui c'est ce type faux?
C'est Alessio Cavatore, je te dis.
Oui, mais à l'origine.
Il a travaillé sur plusieurs éditions.
C'est un qui revient souvent dans Games Workshop.
Ouais, les éditions 6 ou 7, il me semble. 6 et 7, semble-t-il, de Warhammer.
Tu vois, c'est ça qui est intéressant.
Et c'est quelqu'un qui a vraiment. On sent l'amour de la stratégie, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche de te faire acheter de la figurine derrière. C'est aussi des. Donc. Moi, ce que j'aime énormément à King of War, c'est la grande facilité des règles. C'est-à-dire, ça reste tactique, ça reste vraiment intéressant, reste de vrais choix, mais en même temps, t'as pas un milliard de règles comme tu peux en avoir dans beaucoup de livres d'armée.
Des effets aléatoires qui ont des effets détrimentaux sur une partie.
En fait, pourquoi j'insistais pour te faire décrire.
Oui.
Pardon, excuse-moi. Qui est à l'origine de Mantic? C'est parce que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires de dissidence chez Games Workshop. Et pardon, excuse-moi. C'est là que je veux en venir à la réflexion de Maxime. Vous dites, oui, on est dans l'insulte. Non. Vous êtes des passionnés de Games Workshop. J'aimerais savoir, Fabien, Maxime, combien d'argent vous dépensez tous les ans
dans Games Workshop. Depuis près de 5 ans, 0 euros. Parce qu'au bout d'un moment, leurs choix m'ont juste. Je dis, ça m'intéresse plus ce que vous faites.
Et tu vois combien de.
Non, mais moi, c'est
mais
certain
combien
que je
passionné.
Moi, c'est certain que je suis.
Combien d'argent j'ai dépensé? Énormément, je veux pas compter.
Ouais, voilà. Moi aussi.
Vous n'insultez pas Games Workshop.
Je connais par cœur son univers d'Arc Hérésie. L'Hérésie d'Horus, par exemple. Ouais, je dois avoir lu absolument
romans,
tous les bouquins, toutes les nouvelles.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une critique qui vient de nulle part, c'est pas une insulte.
Oui, je dois avoir 4000 points d'armée d'Eldar, 3000 de Space Marine.
Voilà.
Cela dit.
D'Homme Lézard. Donc, bon.
Je discutais l'autre jour, enfin, j'ai une copine qui a fait sa thèse sur la comptabilité des clubs de foot. Et donc elle fait de la comptabilité critique, et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet.
C'est vachement intéressant. Tu souris, Adrien, mais c'est
la comptabilité critique, en fait, ça se pose la question de savoir où va la valeur. La valeur qui est produite dans une organisation, qui la capte? Et donc, ce qu'elle montre, c'est que ceux qui gagnent beaucoup de. Ceux qui gagnent vraiment, c'est pas. On se concentre tout le temps sur les sportifs, c'est en fait les régies publicitaires. Les régies publicitaires s'en mettent bien plus dans les fouilles que les clubs de foot, que les stades, que les équipes, que les. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des footballeurs, en fait, il y a une toute petite minorité qui est surpayée. Tout le reste, ils sont sous-payés, voire pas payés du tout.
Ouais, bien sûr.
Et donc, je veux en arriver. Ce à quoi je veux en arriver, c'est qu'elle. Elle montre notamment qu'une des questions souvent qui se posent dans les clubs de foot, c'est qui est le club de foot, tu vois, parce que les joueurs changent, les gens qui possèdent l'équipe changent, les équipes, tout change, sauf
les sponsors changent.
Les sponsors changent,
sauf
les supporters.
Les supporters, ouais.
Et il y a des supporters qui disent c'est nous qui portons l'esprit entre guillemets du club de foot. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça aussi, je pense, dans les réactions qu'on a là, c'est-à-dire que c'est un peu nous qui portons l'esprit. En tout cas, tu vois, on avait un autre podcast où on disait que moi je projetais à l'excès sur certains jeux. On avait parlé dans Plagues, on a parlé dans Sens Néant. Et moi je projette énormément sur les univers où je me dis il y aurait tellement plus de trucs à dire. Il y a une époque où c'était comme ça, par exemple le Codex Necron, le premier Codex Necron était extrêmement profond, il y avait tout un tas de secrets, de doubles lectures, de trucs que tu pouvais comprendre, parce qu'en fait il y a un Ctan qui est sur Mars, des choses comme ça, des choses que tu pouvais aller chercher assez en profondeur. Bon, peut-être que je vais pas faire trop le vieux con.
Il faisait évoluer le BG en fonction des campagnes internationales qu'il lançait.
Ouais,
alors c'est arrivé une ou deux fois.
Ouais, en fait, ils sont pas tellement mouillés. Hein.
Non,
sincèrement, Tempête
et
Gao.
Quand tu vois, en fait, ils ont lancé un scénar mondial et ils ont dit voilà, vous faites des parties, vous nous envoyez les résultats. Donc en comptant sur la bonne foi des gens. Et
tu parles de jeux de rôle là ou
de jeux de figurines.
Jeux de figurines, d'accord.
Et à la fin, ils disaient ouais, on va faire évoluer ça. Et genre dans le truc de Sigmar, justement. Dans Battle, ça avait quand même pas mal évolué parce que justement le héros de Sigmar, quand il meurt à la fin, et la figurine du coup n'était plus dispo dans les éditions suivantes.
Bon, elle est revenue. Hein,
elle est revenue
tu
après.
Tu peux l'acheter en ce moment.
Non mais Valten. Après, quand même l'édition suivante de l'Empire, il était plus là. Donc au début, je veux dire, ils en avaient parce que genre dans les Eldar, ils ont retiré plein de trucs. Il y avait Eldrad Ultran, il était plus là après. Genre parce qu'il était mort dans la campagne de 40K.
Bon, ils sont pas tant mouillés que ça.
Mais finalement, justement, on avait l'impression qu'ils allaient se mouiller.
Et finalement, non. Alors là, c'est là que tout le monde a été méga déçu. Donc, parce que pendant des mois, tu suis l'évolution de la campagne mondiale.
Ils n'ont pas réellement fait changer l'univers de Warhammer.
Juste un point, quand Maxime parle de 40K, il parle de Warhammer 40 000.
Qui est la version SF pour dire les choses rapidement. Ouais. Mais enfin, qui s'est un peu émancipé.
Ah, bref, on avait plein d'espoir. Ils nous avaient donné plein d'espoir. Ils les ont brisés.
Voilà, c'est ça. Et en fait, quand on dit on projette, c'est que je pense qu'on a un Warhammer 40 000 ou on a un Warhammer en nous qui est de cette manière beaucoup plus riche ou beaucoup. Souvent, quand je lis les résidus Dorus, je me dis ah c'est fou, ils auraient pu raconter ça tellement mieux. Je suis parti de très nombreux déçus de la fin de Fulgrim, mais enfin il y a plein d'autres trucs où tu te dis non mais les motivations de tous les méchants dans les résidus Dorus, il aurait fallu les creuser infiniment plus, elles auraient pu être beaucoup plus intéressantes. Il y a des persos, il y a un perso qui nage qui est Lorgar Aurelian qui cherche une élévation mystique, enfin tout ça c'est des choses dont on aurait pu nous en parler plus, tu vois. Donc c'est pour ça que les réactions effectivement un peu chaudes qu'on a voilà, elles sont dues à ça, quoi.
Oui. Mais moi, j'ai souvent entendu des gens de Games Workshop au final dire dans des interviews qu'en fait, ça, ils avaient jamais voulu ça. Entretenir une communauté et compagnie, mais jamais ça les a intéressés. C'est pour ça qu'ils ont jamais vraiment aidé les tournois.
Ce qui est étonnant.
Ça les a jamais vraiment intéressés. En fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est juste faire un jeu de figurines, quoi.
Ce qui est étonnant avec leur volonté de garder des. Parce qu'une des particularités de Games Workshop, c'est qu'ils possèdent des chaînes de magasins partout en France, en Europe, dans le monde, quoi. Ouais. Donc, ce qu'on appelle les Games Workshop, où moi, j'ai commencé ma vie de rôliste, en fait. C'est-à-dire que la première personne qui m'a dit hey, mais ce que tu devrais faire, c'est pas vraiment la figurine, mais plutôt du jeu de rôle, c'était un mec de Games Workshop. Et le premier mec qui m'a recruté dans un groupe de jeux de rôle, je savais même pas que ça existait à l'époque, c'était un mec de
Games Workshop.
De Games Workshop. Ouais. Et on s'était rencontré là-bas.
C'est là aussi que, comme toutes les licences ou comme toutes les franchises, Games Workshop a ses pratiques en fait en termes de recrutement, en termes d'esprit d'entreprise, très à l'américaine, un petit peu comme dans un McDo.
C'est un peu les genius d'Apple, non ?
De quoi ?
Les vendeurs de Warhammer, c'est des boutiques Warhammer, c'est un petit peu comme les genius des boutiques Apple.
Je sais pas du tout. Ah,
c'est souvent des passionnés, ouais. Il faut aimer le produit, c'est clair. On revient peut-être au.
Je suis pas un connaisseur de Macintosh.
On revient peut-être à la partie.
On n'a pas parlé du perso d'Adrien encore.
C'est vrai. Parce que quand même, c'était le monument.
C'est aussi l'occasion de ce podcast pour parler aussi.
On va y revenir.
Je t'en prie, Adrien.
Alors, mon personnage, parce que hélas, il n'y avait eu qu'un échec autour de la table, il en fallait un deuxième. Ben, je suis tombé sur un collecteur de taxes. Ce qui,
collecteur de taxes ? Ah bah c'est bien avec ton oncle.
C'est ça, exactement. Ouais. En fait, je sais comment interpréter ce genre de personnage, il n'y a pas de problème.
Bah oui,
enfin,
avec ton
oncle. Je sais comment mettre de l'argent de côté quand je prélève des taxes.
Tout à fait.
Le seul défaut...
C'est quoi la Suisse de l'univers Warhammer ?
C'est la forêt de Lorraine.
D'accord. Donc tu
L'Helvétie.
Les elfes,
ouais,
non.
Vrai, ils sont un peu neutres, ouais.
C'est vrai qu'ils sont complètement neutres,
ouais,
les
ils sont
refermés sur eux-mêmes. Parfois, quand tu vas à la frontière, tu leur demandes de l'aide, ils t'accordent de l'aide. Ça...
Et des fois, non, et t'as pas d'explication et tu dégages à coup de flèche.
C'est préjugé sur la Suisse que vous êtes.
Sur la Suisse, non, sur les elfes sylvains.
Sur les elfes sylvains.
Ah, excusez-moi, je croyais que vous parliez de la Suisse.
Alors, on pourrait parler des nains plutôt, parce que c'est eux qui ont les thunes et qui sont dans les montagnes.
Ouais, donc voilà, racisme, voilà.
Oui,
quand il nous tient.
Donc
oui,
ouais, collecteur de taxes, heureusement, franchement, je m'attendais vraiment à des choix de compétences tout pourris, tu vois, entre genre baratin et
Et chute artistique, tu veux dire ?
Non, ouais, non, ok. Non,
parce que des choix pourris, ouais...
Non mais, si tu veux, t'as des fois où t'as des choix pourris,
Adrien.
Pourris, donc, comme toi, et puis moi, il y avait pourris et des trucs un peu utiles, genre j'avais des compétences de tir, des trucs comme ça, donc
c'est
voilà.
Clair, j'étais à mes doux, un collecteur de taxes, il ouais, a ça, quoi.
Alors après, quand tu projettes, tu dis ok, le collecteur de taxes, c'est surtout le mec qui a une cargaison d'or et qui va d'un point A à un point B et il veut pas qu'on lui prenne l'or et la vie. Voilà, donc bon. mais moi, la question que je me suis vraiment posée quand je suis tombé sur ce perso, c'est autant les vôtres, mercenaires, troubadours et chasseurs, c'est des gens que tu vois avec une vie un peu précaire et qui du coup ont des raisons de partir à l'aventure.
Aventure, ouais.
Voilà. Moi, je suis un putain de collecteur de taxes, donc j'ai un employeur, j'ai une mission. J'ai sans doute une maison, j'ai peut-être une famille. Ouais. Pourquoi je pars à l'aventure, quoi, le début où on nous dit hey, retrouvez-moi de nuit là-bas pour. Moi je dois dormir, demain je bosse, les enfants. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres comme ça. Je crois que le bourgeois est pas mal what the fuck.
Parce qu'après,
bon, le chasseur de rats, le batelier, il y a plein de boulots. On sent que c'est un peu des intérimaires qui font quand ils peuvent leur boulot.
Alors attends, qu'est-ce qu'il y a ? Le chirurgien barbier, c'est pas mal.
Voilà, pareil, un chirurgien barbier, on s'imagine très bien le gars qui voyage de ville en ville pour arracher les dents là où il faut. On l'imagine voyager.
Le collecteur de taxes aussi, il peut voyager à travers le monde.
Il n'est pas un millionnaire, tu vois, il n'arrive pas dans une ville, il fait « Bonjour, je suis collecteur de taxes, s'il vous plaît, donnez-moi une mission. » Enfin, tu donnes ça à quelqu'un de confiance de la région. C'est pas tu fais passer un pécor, quoi.
C'est vrai que quand je regarde les...
Vas-y, fais-nous rêver un peu là, Fabien, parce que je te vois faire.
Ah ben, tu sais, il y a
un pilleur de tombe, un chasseur de rats.
Ouais, l'escroc aussi. T'as une carrière d'escroc, pilleur de tombe. Tu peux être pêcheur. Alors,
ouais, voilà, alors, pêcheur, c'est un peu stable.
Pêcheur, l'illustration te vend du rêve. T'as un mec qui est en train de sortir un filet de l'eau avec une grosse tentacule de pieuvre. Enfin, pêcheur dans Warhammer, c'est le mec qui lance son filet, tu vois, dans les rivières au mieux, et sinon à la mer, quoi. Ah,
parce que celui-là, il est sacrément musclé, il est.
Ouais, il fait un truc de fou, il fait rêver. Tu peux jouer un paysan aussi.
Oh putain, mais voilà, pareil, paysan. Mais comment un paysan part à l'aventure?
Non, mais scribe, fais quoi? Tu suis les autres, quoi.
Ouais, mais scribe.
Un serviteur.
Le paysan, c'est trop bien, il a une opportunité de carrière derrière de ouf, quoi. Il peut faire quasiment tout.
Ah, et puis il y a quand même des trucs qui font rêver, trafiquant de cadavres.
J'avais pire de tombe en tête, mais c'est peut-être l'évolution.
Ouais, non, c'est clair que.
Pilleur de tombe, c'est le premier, je crois. Après, tu peux évoluer en.
Tueur de troll et charbonnier, c'est vrai qu'il y a des.
Tueur de cadavre, c'est le mauvais.
Dans ma campagne, j'ai un joueur qui a commencé.
C'est plus logique de commencer par pilleur de tombe avant d'être trafiquant de cadavres, parce qu'il faut que
une chose après l'autre.
Il faut bien récupérer les cadavres quelque part.
C'est ce que je dis.
Et après, les carrières avancées font rêver un peu plus.
Pilleur de tombe, c'est genre Tomb Raider, c'est un peu de l'action.
Valet, là, l'illustration, elle vend du rêve, mais pas dans le bon sens, quoi. Le mec, il est enchaîné. Mais vraiment, hein, il y a des chaînes autour du cou, autour du bide. Voilà.
Bon. Du bondage, quoi.
Si tu veux.
Je pense que cette notion de métier, on en reparlera quand je vous ferai tester prophétie.
Ce sont des carrières, pas des métiers.
Oui, des carrières. On en reparlera bientôt.
Je sais pas ce que ça change, mais le mot n'est pas le même. Parce que moi, j'avais des métiers.
Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ensuite?
J'étais forgeron.
Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors, moi, déjà, le gros truc auquel je m'attendais, c'est. Comment tu vas nous lancer dans une histoire, sachant que voilà, on n'a aucun lien, on n'a pas de BG, on n'a rien fait, enfin, il y a rien, quoi. Donc on trouve un vieux prétexte.
Oui, c'est ça, c'est un JDR tradit, il y a un vieux qui nous a donné une quête, quoi.
Oui, mais non, ce qui est
important. Un copain qui nous a donné une quête.
Non, moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'était même pas genre, vous êtes dans une taverne, parce que, tu vois, vous êtes dans une taverne, vous êtes là à l'aventure. Ok, moi j'étais, tu vois, à ce moment-là, ça veut dire j'étais collecteur de taxes, et là je suis parti à l'aventure, très bien, on tire un trait sur mon passé de collecteur de taxes, ça me fait un petit historique, tu vois. Sauf que non, là j'étais collecteur de taxes, on était chacun là pour notre boulot, et c'est vrai que le passage à l'aventure est un peu dur.
Un peu rude.
Un peu rude, ouais, c'est un peu...
Je veux dire, en même temps, collecteur de taxes, tu regardes tous les autres, c'est vraiment celui qui est le, enfin, ouais, le moins à l'aventure, quoi.
Ben non, enfin, il y en a plein d'autres. Enfin, même, tu vois, un paysan, il part pas à l'aventure avant qu'on lui ait brûlé sa chemière, tué sa femme et ses enfants, enfin.
Matelot, c'est pas mal aussi, parce que matelot.
J'imagine.
T'es sur un bateau en principe.
Ouais, matelot. Ouais. Mais après, matelot, tu peux dire, ok, mon bateau a coulé. Ouais, mais voilà, tu vois, à nouveau, enfin, t'es obligé de projeter et de créer une sorte d'histoire pour justifier que tu partes à l'aventure.
Enfin, encore une fois, on l'a fait en one shot, hein, en vrai, quand tu prépares une campagne, tu discutes avec ton PJ, oui. Tu te fais un petit BG,
alors,
compagnie,
oui,
compagnie.
Mais est-ce que ça, c'est écrit dans le bouquin? Comment est-ce que t'as.
Mais attends, là, on joue à Warhammer, si c'est pas l'avatar du jeu sur lequel tu t'adaptes.
Je suis.
Oui, mais oui. Non, et puis effectivement, Warhammer, il y a une réponse toute faite qui est que Warhammer ne peut se comprendre qu'en campagne, tu vois.
Oui.
Je veux dire.
Mais une campagne, il faut quand même qu'elle commence.
On l'a dit, hein, le mot même vient de là. Enfin, c'est un wargame quand même à l'origine. Ce sont des figurines dont on est en train de parler là.
Vraiment,
si indirectement, c'était ça le but du jeu de rôle Warhammer.
Il y a un système de cases normalement dans Warhammer. Avec
le jeu de rôle, à mon avis, Warhammer a été sorti par, je pense, avec beaucoup de passion. Tu vois, vraiment l'envie d'approfondir l'univers.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait cette idée que tu intégrais le champ de bataille, que tu étais une figurine, tu vois, et qu'enfin tu pouvais sortir du socle, si j'ose dire.
À discuter, on peut en parler maintenant ou plus tard. C'est justement le fait que le système de carac, de points, de machin, du jeu de rôle soit très facilement passable au jeu de figurines.
Ouais.
Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé quand j'étais gamin, c'est que on faisait une partie de jeu de rôle, et puis à un moment donné dans la campagne, c'était prévu, il y allait avoir une bataille, Et donc, ben, les personnages seraient sur le champ de bataille avec les armées en vis-à-vis.
Ça, c'est cool.
Bah, et ça, c'est énorme.
Je te parlais de mon MJ tout à l'heure. Il s'était fait une armée de son Falkenland, donc du de la région qu'il avait.
Et chaque figurine avait une histoire.
Hein. Absolument.
Oh, putain.
Mais par exemple, je me souviens que j'avais une armée de gobelins. Et à un moment, il y a un squig, cette espèce de grosse bête qui.
Je crois que c'est les bêtes les plus mignonnes de tout l'univers de Warhammer.
Elles ont des grandes dents et.
Elles sont trop choupies.
Si tu veux, ouais.
C'est un peu comme Pac-Man, mais en vrai, tu vois.
Et en rouge. Oui, et en donc, rouge. Il tombe sur un régiment qui le chope, et sur le moment, on dit ah merde, Otto a disparu. Parce que tu vois, il s'est fait choper par le truc et il a. Et en fait, il l'a ensuite réintégré dans le jeu de rôle, Otto Van Sergent Instructeur, parce qu'il avait perdu une jambe durant une bataille et est devenu instructeur des troupes du vicomte.
Et ce qui est génial dans Warhammer, c'est qu'évidemment, je crois que dans les règles de base, il y a un système de cases et compagnie. Et que quand on était jeune, on jouait avec nos figurines Warhammer en plus pour représenter les batailles. Des fois, on sortait même des mètres pour faire les distances en disant le nain il a que 3, il bouge qu'à 3. Ça faisait chier, hein, mais en gros, ça permettait de visualiser. Hein.
On a fait des tonnes, moi je me souviens, pour les visualisations, tonnes de combats chez mes parents comme ça.
Et vu qu'on jouait à Warhammer, on avait des décors à la maison. Donc tu sortais les arbres ou les décors urbains, parce que plus ça allait, plus on avait des décors avec le temps. Et du coup, on pouvait vraiment simuler des bastons dans les...
Des vraies batailles.
Et du coup, niveau immersion, c'était quand même pas mal. Parce que vraiment, tu disais, je me suis caché là, je me suis caché là. Puis tu vois, ça marchait mieux que Vademecum pour moi.
C'est vrai.
Mais en fait, ce que je trouve assez fun là-dedans, c'est ça, quoi. C'est le passage de l'un à l'autre du jeu de rôle à la figurine, quoi. C'est ça qui est génial.
Du coup, c'était moi le MJ, mais on avait fait une campagne où ça commençait bataille, et puis après, on suivait les généraux qui avaient dû fuir.
Ah, je trouve ça génial.
À l'inverse, on commençait figurine, et puis il y avait des passages de l'un à l'autre. Ça, c'est vraiment, vraiment cool.
Génial.
Et ça se fait très facilement parce que la feuille de personnage.
La feuille de perso est
le profil, c'est quoi? On a capacité de combat, capacité de tir, force, endurance, agilité, intelligence, force mentale, sociabilité. En gros, il y a tous les éléments de Warhammer Battle.
Ouais, tu prends les chiffres des dizaines et tu fais ta...
En fait, celui-ci, il faudrait encore reprendre la première édition qui était encore plus proche. En fait.
La force et endurance était sur 10 et il n'y avait même pas de...
Ouais, la première édition, en fait, tu avais juste le...
C'est juste CC et CT qui étaient sur 100.
Non, en fait, ce qui se passait, c'est que tu avais toutes les caractéristiques des figurines.
Plus quelques
zones. Quelques zones. Plus 4 supplémentaires, genre ça, force mentale.
Non, je crois que force mentale, c'était le commandement.
Par contre, il y avait dextérité et agilité dans la première édition.
Ouais, il y avait des trucs en plus, mais je crois que c'était le commandement qui s'est
fait. Attention à ton micro, Adrien.
Pardon. Bref, voilà. Alors, donc, revenons au scénario. Il y a un mec qui vous envoie une.
Non, j'aimerais faire un petit retour sur la création de personnages.
Oui.
J'aimerais que tu nous donnes un petit peu les statistiques sur les classes, enfin les métiers qu'on peut avoir au début.
Ah oui, alors on parlait de.
Non, mais grosso modo, parce qu'on les jette au hasard. Donc j'aimerais savoir c'est quoi les chances de tomber sur un truc un peu intéressant et les chances de tomber sur un truc complètement moisi.
Faible.
Alors, c'est une bonne question.
Genre apprenti sorcier, c'est quoi?
C'est à 3 chances sur 100.
Apprenti sorcier, pour un humain, t'as 2 chances sur 100.
Voilà.
Et ça, c'est le village?
Ah non, apprenti sorcier, t'as 2 chances sur 100. Les elfes ont 6 chances sur 100.
C'est pour ça que tout le monde voulait jouer elfe, hein, d'habitude.
De devenir geôlier, t'as 1 chance sur 100. Sauf pour les nains, qui ont 3 chances sur 100 de le...
Parce que les nains, en fait, vu qu'ils ont moins d'accès à des carrières, nécessairement les
probas... Les autres
augmentent. Ah, oui,
les nains, par exemple, ils ont très peu de chances d'être porteurs une. Je crois que c'est 2 ou 3 chances sur 100. Par contre, ils ont de grandes chances d'être mineurs. Tu vois, c'est
Et alors, vas-y, donne des métiers type, je sais pas, mineur, bûcheron.
Vagabond, donc le mendiant, t'as 2 chances sur 100. Voleur, 2 chances sur 100. Valet.
C'est quoi les métiers où t'as un gros pourcentage?
Je crois qu'il y a soldat ou un truc dans le genre, t'as de grandes chances. Ou paysan, t'as de grandes chances.
Pas tellement.
Ça ressemble à des statistiques.
Faut dire qu'il y a genre une soixantaine de carrières. Donc
non, c'est important. Si paysan, c'est une petite.
T'as plus de chances d'être noble que d'être régisseur.
Ok, en fait, non, mais ce que ça dit, c'est que déjà, c'est pas comme Fatal. C'est-à-dire que c'est pas l'auteur qui a essayé de projeter des stats de population sur les stats-là. Ouais.
Ah non, je pense que c'est un peu fait à la One Again, quoi.
C'est un peu fait à la One Again, un peu fait à l'intérêt, tu vois, genre, les apprentis sorciers, on va pas en mettre beaucoup, parce que c'est
ce non, que en fait, les apprentis sorciers, t'as pas plus de chances d'être apprenti sorcier que d'être marin, par exemple.
D'accord.
C'est vraiment les mêmes.
Alors, ça a peut-être beaucoup changé entre les éditions 1 et 2, mais.
Je crois que si dans le jeu, ils te disent oui, vous pouvez les tirer à l'aléatoire, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir. Je veux dire, t'as un mec qui joue à Warhammer en disant je veux jouer un mage, on va pas le faire tirer au dé, quoi.
Voilà, il y a des choses, tu vois. On a tendance à beaucoup respecter les règles parce que c'est un peu notre approche. notre credo, oui, mais nous on négocie. En fait, on était tout le temps dans la négociation avec le MJ. Tu vois.
Mais c'est ce qu'on a fait.
On a fait tout le temps aussi pendant cette partie.
Shadow puis Natacha.
Oui, parce que je voulais faire part de mon expérience lorsque j'ai lancé ma campagne. Nous, on a tiré trois fois sur la table des métiers, des carrières, pour chaque joueur. Et comme ça, il avait trois choix de carrière. On savait qu'on partait pour une campagne, qu'on allait y jouer longtemps. Il ne fallait pas que ce soit un truc complètement débile, qu'on n'ait pas envie de jouer. Donc, on tirait trois carrières et on choisissait. Okay. Donc, ça permettait un petit peu de jouer, enfin d'avoir...
C'est très souvent ce qui se passe quand il y a des créations de personnages aléatoires. C'est ce qu'on fait aussi avec Adrien sur Cthulhu, c'est on fait tirer plusieurs fois les caracs et puis
comme Shadow, on a la même technique pour les caracs, c'est au lieu de faire chacune son tour, on tire toutes et ensuite on répartit les chiffres pour faire un bonhomme.
Je me souviens que même quand on avait créé nos persos il y a fort longtemps, on avait fait ça.
Parce que sinon c'est horrible, je veux dire quand t'es mage, tu tires ton 3 en force mentale, tu vas te faire chier pendant toute la partie.
Ouais, en fait c'est
la campagne.
Et c'est des heures et des heures de
là,
heures
là,
de
il y a
jeu,
la miséricorde de Chalia en plus qui en principe
oui mais nous mais on l'utilise pas parce que c'est une cara qui passe à la moyenne. Je veux dire, quand tu fais un match, t'attends à faire un score pas dégueu en force mentale, quoi, tu vois. Sinon tu vas te le traîner toute la... Faut voir que ce genre de conneries, 9%, tu vas te les traîner toute la campagne et au maximum t'auras un plus 40 un jour, c'est bien, mais
je suis curieux, les métiers on les tire avant ou après les caracs?
Adrien.
après
d'abord tes caracs et ensuite ton métier.
Alors j'aimerais bien rapidement...
En vrai, dans la pratique, on faisait l'inverse. Hein.
Ouais. J'aimerais bien rapidement qu'on explique le système de résolution. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de pourcentage.
C'est vraiment important.
Tu lances... Et là, je comprends
en
rien.
En gros, on a la plupart des scores qui sont en pourcentage. Et par pourcentage, comprendre, on a entre 20 et 40% si on est excellent. En pratique, on a entre 20 et 30.
En 17, ouais. 16,
en pratique, on a entre 20 et 30.
Parce que quand tes compétences, tu divises par 2, tu peux descendre à des 11-12.
Ouais. Bon. Et donc, on va tester là-dessous. Donc, par exemple, pour toucher au corps à corps, on va jeter capacité de combat. Pour, marchander, il y a une compétence marchandage. Et donc, si on a la compétence, c'est notre score de sociabilisation. Donc,
sociabilité.
Là, par exemple, j'ai 32. Mais si on n'a pas la compétence, c'est divisé par 2. Et des compétences, là, sur ma feuille de perso, j'en ai... 5, 6, enfin j'en ai 5 dans les compétences de base sur une liste d'une vingtaine, je pense.
Puis elles doivent être utiles, hein. Vu que t'es collecteur de taxes, je pense que ça
doit
être pas
ça,
mal.
Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai commérage, évaluation.
Son personnage, il était collecteur de taxes, mais il se débrouillait. Le personnage vraiment pourri, c'était le battleur à Maxime, hein, c'est clair. Toi, au moins, t'avais une épée, t'avais une armure,
tu
pouvais te battre un peu, t'avais une arbalète.
Tout ça pour dire qu'en moyenne, on a un tiers des compétences, on va dire, qui sont présentes, où on va jeter des scores de l'ordre de 30%, et le reste du temps, on va jeter des scores plutôt de l'ordre de 15%. Donc
c'est-à-dire, tu lances un dé 100, il faut faire en dessous.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc en moyenne, t'as les actions de base, t'as une chance sur 3 d'y arriver. C'est-à-dire que tu te foires souvent.
Et ça, c'est les actions que t'as une chance de faire, parce que les actions où t'es moins bon, t'auras une chance sur 6, quoi.
Voilà, sauf que... On avait quand même des bons tireurs, hein. Ils arrivaient. Après, t'as les bonus malus de circonstance. C'est-à-dire que quand tu sur un gros ennemi à plusieurs ou en visant, enfin ce genre de choses, t'arrives vite à des scores. Mais dans le meilleur des cas, t'arrives rarement à plus de 50-60, ce qui reste quand même pas bézef. Hein. Et ça, c'est dans les super bons cas, quoi.
D'accord.
Donc autant dire que c'est un jeu où tu échoues beaucoup.
Pour donner un exemple, je crois que le score le plus élevé qu'on avait autour de la table à une compétence, c'était toi en tir.
Toi, Shadow.
Shadow, pardon. Parce que t'avais plein de bonus, voilà, que t'avais réussi à choper ou à la création. Mais en gros, faut dire, ce personnage, il va pas évoluer beaucoup pendant 37
En fait, comment dire. Je suis d'accord avec vous, effectivement, le fait de... On va beaucoup échouer. Ça, il n'y a pas de problème. sauf dans les combats. En fait, assez rapidement, on s'aperçoit que dans la liste des actions, on va gagner des bonus. Par exemple, si on veut gagner du corps à corps, on va faire une charge, ça va nous donner plus 20% de chance de toucher. Donc, quand on a 30, on passe à 50%, c'est une chance sur deux. Alors oui, ok, c'est une chance sur deux, mais c'est quand même une chance sur deux. Donc, pour les combats, c'est pas vraiment problématique. Il y a toujours une solution pour taquiner la moyenne ou passer au-dessus.
Un combat, ce qui se passe, c'est qu'en pratique, on va faire trois tours où tout le monde va rater.
Voilà, et puis d'un coup, bim, voilà.
Donc, au final, on perd juste un peu de temps dans les combats.
La problématique, elle est pas là. La problématique, elle est dans le canotage ou le fait de savoir nager ou d'escalader.
C'est quand on veut fuir d'une baraque où on est poursuivi par des gardes, on descend par la fenêtre avec une corde,
et là
tout le monde tombe par terre. Parce que
tu dois faire moins de 17.
En même temps, excusez-moi les gars, mais c'est assez cohérent parce que dans Warhammer, fuir, c'est souvent la grosse grosse merde. Ouais, quand, quand t'es figurine,
toute
se
la
retourne.
Grosse merde dans Warhammer.
Mais là, t'imagines que personne ne sait monter une corde ou descendre une corde. C'est-à-dire que voilà, on est 4, on a, il faut tous faire moins de 15 ou 17. Voilà, descendre. Et on se viande tous comme des bouses.
Attends, me dis pas quand même qu'il y a la carac monter une corde et la carac descendre.
Escalade.
Attends, tu m'as fait peur.
Fondamentalement, c'est que un truc que nous tous on aurait réussi. Je veux dire, moi dans la vraie vie, ma vie est menacée. Il y a une corde, j'arrive à descendre. Je l'ai déjà fait plein de fois. Ma vie n'a jamais été menacée. Mais descendre à la corde, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait de l'escalade. Mes premières séances d'escalade, en n'ayant jamais fait, j'y arrive sans souci.
Et tu te brûles un peu les mains.
Tu brûles un peu les mains, mais tu t'en fous. Quand ta vie est en danger, tu te brûles les mains. Il y a pas de souci. Et là, tu me dis, on avait tous que 10% de chance d'y arriver. Mais ouais, 15%. Tu vois, c'est ridicule. C'est complètement con, quoi.
Ce qu'il y a derrière, c'est que derrière, il y a un tableau de hauteur de chute et dégâts qu'on prend. Et donc, là,
c'est là que ça devient
là,
marrant.
Là, tu te dis, ok, c'est un jeu qui essaye de simuler Adrien. Un peu, d'avoir une sorte de cohérence avec le réel. Tu vois, genre, tu tombes de telle hauteur, tu prends tant de blessures. Why not? Et là, tu te dis, bah attends, mon jet, je l'ai raté de pas beaucoup. J'ai quand même réussi à descendre un peu la corde. Bah non, tu tombes d'en haut, donc tu prends les 9 mètres de chute, ça fait tant de dégâts.
Donc tu prends les 3 quarts de tes PV.
C'est ça, exactement, ouais. C'est ça. Et après, tu pries pour juste ne plus avoir à faire un jet de dé, parce que sinon tu vas te toucher et mourir.
Scénario, c'était quoi? C'est ça. C'est quoi? On y revient.
Scénario, on y revient.
Parce que
ouais, vas-y, parce que je me rappelle plus.
Que... Il y a un mec, on croise des chasseurs de primes, on croise des fanatiques. On les bluffe, on récupère une quête, on va chez le mec, on récupère la caisse, il y a des mecs qui veulent nous buter. On s'enfuit ou on les bute, on va brûler la caisse avec un joli bûcher, on va dans les égouts parce qu'Adrien a trouvé une carte, on trouve des scavens, on les tape, fini.
Bref, j'ai fait un scénario de Warhammer.
Voilà.
C'est ouf parce que ça ressemble exactement au scénario de Warhammer qu'on faisait avec
Benjamin. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour.
Est-ce que dans les égouts il y avait deux issues, une où il y avait des scavens et une où il y en avait pas?
Non, c'était
un couloir.
Il y avait
des scavens dans tous les cas.
C'est pas une question
d'issue. C'est un peu différent alors. T'as fait une originalité là.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Cela dit, j'ai pas tellement.
Prends des libertés.
J'ai pas. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est pas tellement que c'était. Enfin, je sais pas. C'était pas complaisant. Je sais pas de refaire. Tu vois, simplement, c'est les thèmes que moi j'ai toujours aimé. Tu vois, je remets les trucs que j'aimais bien quand j'étais jeune, quoi. De l'aventure cheapos, où tu cours sur les toits, où t'as des monstres à la fin, et puis un truc pourri, et pas très high fantasy, quoi, tu vois.
Il y a combien de scénars de Warhammer qui ne se finissent pas sur un plan d'une grotte avec des scavens dedans?
Ou des monstres, ou des...
Ouais, ouais.
Alors c'est aussi une grosse référence à la campagne de l'ennemi intérieur, puisque dans le premier tome qui est là, tu vois, on dit toujours, dans la JDR Tradi, il y a souvent une grande campagne qui l'accompagne. La campagne de Warhammer, c'est l'ennemi intérieur. Et la première partie de l'ennemi intérieur s'appelle... ça m'échappe maintenant, mais enfin, il y a un moment où on
se promène. Ce ne sont pas les scavens que vous recherchez.
Non. Mais il y a un moment où on n'arrête pas de se promener dans les égouts, où t'as un plan. Enfin, bon, t'as plein de choses à chercher.
Comment il s'appelle la campagne? Il y a une campagne avec l'empereur, on joue dans une ville. C'était quoi la première campagne de Warhammer, Les Scavens n'existent pas, là, qui est sortie?
C'est celle, l'agonie du jour, tu veux dire?
Non, c'est pas celle-là. J'aimerais bien retrouver le nom.
Avec les scavens, il n'y en a pas souvent, hein. Là c'est des campagnes de première édition. Dans la deuxième édition, il y a Terror à Talabaim,
c'est celui-là que j'ai fait.
C'est les Skaven.
100% des Skaven,
c'est celui-là que j'ai fait. Ouais. Et alors, il y en avait partout. Et il y en avait dans les villes, il y en avait dans les tonneaux, il y en avait dans les villages, il y en avait dans les forêts. Tu sortais de ton pieu, il y en avait un sous ton lit. Enfin, il y avait des Skaven partout.
Mais en fait...
Et je me souviens que derrière le livre, le texte, la quatrième de couverture, c'était: les Skaven n'existent pas. Alors, c'est peut-être pas sur la quatrième de couverture, c'était peut-être en entête du scénario. Je sais plus, mais je me souviens qu'il y avait cette phrase, et alors t'en trouvais partout. Il y en avait partout. Et alors, au début, ce que j'adorais, c'est que Ben Guérin avait fait l'effort.
Dans mon lit, il y a des Skaven.
Alors, Ben Guérin avait fait l'effort de respecter le truc qu'on savait pas. Donc, il nous décrivait: alors, vous voyez des formes, alors, ça ressemble à des rats. Puis, t'entendais au fond de la classe: ouais, bah, des Skaven, quoi.
Ah bah c'était la même là. Ouais, c'est des sortes de petits êtres bossus capuchonnés.
Ouais, bah c'est des Skaven.
Ah, quoi.
Non, ils sont petits et bossus et vous savez pas ce que c'est. Ça a l'air de mutants.
On a vu
ils ont des moustaches.
Les Skaven. Les
Splinter, quoi.
Oui, les Skaven, ça marche que avec des gens complètement débutants qui ont jamais joué à Warhammer.
Je crois que si
Adrien.
Non, ça ne fonctionne pas, non. Parce que
même voilà. Natacha connaissait les Skaven.
Oui, alors déjà même moi je connaissais les Skaven et en plus.
Quel est le roman français du 17e siècle qui nous parle de Skaven? Dis-nous, Natacha.
Alors attends, attends. Tu veux que je mette la musique d'élitisme là parce qu'elle va réussir à trouver une référence. Hein.
Le joueur de flûte de
Hamelin. Allez,
les rats dans les murs de Lovecraft.
Mais c'est pas 17ème ça.
Attends, les hommes rats et tout ça, il y en a. Il n'a pas dans la. Non, dans la fontaine, ils n'utilisent pas les rats. Hein.
Je crois pas. Si, le lion et le rat, mais c'est pas des hommes rats, quoi.
Oui, c'est pas des hommes rats. Non,
lorsque la malpierre nous mime.
Ah, la malpierre, tu sais que je suis jaloux, comme un pou. Jaloux de ce terme. La malpierre.
Ah, c'est très chouette.
Il est génial, ce terme. Génial. Ça, c'est. J'aurais tellement voulu inventer la malpierre.
Les scaven, ça marche qu'avec des gens qui
sont. Oui, pardon, oui, oui. Oui, et puis en plus, je mets au défi de. Trouver une table de grand une table entière de grands débutants où il y a que le MJ qui sait ce que c'est quoi. Bah oui et du coup quand
ils ont pas regardé Kaamelott.
Attendez, ma boîte mail vient d'exploser là.
Quand t'es juste grand débutant, enfin quand t'es tout seul grand débutant à une table, de toute façon on te l'explique dès le départ quoi. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé, vous me l'avez expliqué avant qu'on commence à jouer, vous avez expliqué ça dans l'univers.
Bon, après c'est du jeu de rôle, on fait comme si on connaissait pas et puis, voilà, c'est ça. Ah bon.
Shadow, tu voulais ajouter
quelque chose ? Oui, parce que hormis les Skaven qui reviennent tout le temps, il y a aussi le dilemme de joueur de Warhammer de on rencontre un PNJ, il est tout seul dans les bois, il a l'air d'avoir de l'équipement.
Est-ce qu'on le bute et on
le
loot ?
Est-ce qu'on le laisse en vie ou pas ? Voilà.
Il y a eu une discussion à un moment de dire est-ce qu'on joue comme on jouait quand on avait 14 ans ou
est-ce qu'on essaye d'être un peu plus évolué ? Bon, le premier, on l'a laissé partir.
Parce qu'il avait un nom.
Parce qu'il nous a donné 4 couronnes d'or.
Surtout, et là j'ai envie d'appuyer dessus, il y a deux événements importants dans le scénario. Le premier, c'est justement ça, c'est le moment où on nous donne la quête. Parce que, moi j'ai quand même envie d'en parler, parce que c'est quand même phénoménal.
C'est un gars lambda qu'on connaît à peine qui nous dit, venez dans les bois cette nuit à tel endroit.
Hors de la ville, à tel endroit. Il envoie il envoie des messages à chacun d'entre nous par des gamins des rues, que sais-je. Alors voilà, bon... Je suis collecteur de taxes. Bon, j'y vais. C'est évident.
Oui, c'est normal.
C'est évident.
En pleine forêt, la nuit.
Ma mercenaire, le personnage de Natacha, vient avec moi. Mais ça, c'est normal. C'est ma mercenaire. Voilà, tout va bien. Là, on avait réussi à trouver un truc cohérent.
Jusqu'ici, tout va bien.
Le bouffon. Le bouffon. Lire, on a toujours besoin de rire, quoi. Donc, on demande au battleur de venir. Le chasseur, le chasseur, ça colle, voilà.
Tout à fait. Bon, et puis, je bossais dans même foire que le battleur, donc on venait ensemble.
On a une cohérence moyenne. On se retrouve là-bas.
Ouais. Et là, on croise
et
les fanatiques.
Et là, on croise la moitié de la ville, en fait. Parce que, c'est ça. De nuit, à un rendez-vous, il y a la moitié de la ville qui vient.
Le soir, il n'y a plus personne, en fait.
Une dizaine de fanatiques qui cherchaient.
C'est vrai que je suis mauvais anglais, était recherché, ça se comprenait.
J'ai pas entendu ce que t'as dit, Fabien, excuse-moi.
Le mec était recherché par des mercenaires.
Qui nous donne rendez-vous.
Embauché par ses employeurs qui voulaient le retrouver, et d'autre part par des flagellants, ouais.
Et donc là, le mec, on le croise.
Et on se dit.
Et on se dit, ok, il va nous expliquer un truc, nous donner une mission. Ok, on sait que c'est le mec de la quête, le vieux de la quête. Non, mais c'est souvent un vieux. Ouais.
Oui,
un vieux mourant.
Je suis au courant.
Et il nous fait faut que vous alliez chez moi, il y a une caisse à ramasser. Il fait c'est le paiement de la mission. Faut que vous la brûliez sans regarder ce qu'il y a dedans. Ok, ça, c'est la mission, du coup. Vous nous payez combien ? Mais j'ai pas d'argent. J'ai juste un peu d'or sur moi.
Okay.
Mais bon, d'accord, c'est la quête. Okay. Alors, donc là, c'est le moment où, en tant que joueur, on fait d'accord, c'est la quête. On fait la quête.
Parce que scénaristiquement, on a toutes les raisons de juste buter ce mec.
Prendre ses thunes,
le livrer aux fanatiques parce que le mec
était
mutant quoi. Il voulait pas nous le montrer, mais on avait bien compris. Et en fait, j'ai senti que Fabien, il aurait aimé que dans une campagne, vu qu'il nous a expliqué des trucs sur lui, qu'on soit sensibilisé à cette personne, qu'on y soit attaché.
Je me faisais pas tant d'illusions que ça.
Ouais, bon, tant mieux.
Il a pas préparé parce une campagne.
Non, c'était un scénario point.
Qu'en fait, dans une campagne, tu sens que vu qu'il y avait des gens, tu nous avais expliqué l'histoire de la ville et compagnie, moi j'étais, mais qu'est-ce que tu m'expliques ? J'en ai rien à foutre.
Alors en fait,
je sens que ça va pas être utile. En plus,
ça
sert
à rien.
Mais comme dans tout le scénario de jeunesse, effectivement.
C'est vrai, tu te fais chier.
Pour te répondre un peu plus clairement, ça fait partie d'une campagne Warhammer que je n'ai jamais écrite, mais pour laquelle j'avais développé des choses beaucoup plus poussées, en fait. Alors, d'accord. Pas avec cette accroche tout de même, mais j'avais développé des trucs un peu. Et j'ai jamais joué, en fait.
J'adorais ton amour de l'accent allemand, enfin, de prononciation allemande.
Je prononce, enfin, j'ai fait 10 ans d'allemand, au moins je pourrais pouvoir.
prononcer mes noms en allemand.
Il y a une personne à la table qui est sensible à ça.
Merci. Alors ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup, Natacha, de savoir écrire les noms de mes personnages en allemand.
Oui, bah, j'étais moi aussi 10 ans d'allemand, mais je suis désolée, c'est la seule chose qui me reste. Hein.
Mais c'est tout ce dont on a besoin. Savoir prononcer les noms des personnages.
Sauf que tu vois, quand t'as 3 personnes sur 5 autour de la table qui savent pas les prononcer, c'est con quand même.
Shadow. Maxime, il y a combien de parties de Warhammer que vous avez fait ?
Zéro.
Où les noms de personnages autres que les PNJ écrits dans la campagne officielle avaient des noms pseudo-allemandisants ?
Non, non, il n'y en avait pas.
Ouais, c'est ça, il s'appelait Jean, Bob et. Ouais, c'est ça.
Ouais, parce que Valburge, Geisefte,
Rudolf Widmer,
Feunesenhof, parce que moi je les ai écrits en phonétique. Hein.
Les gars, vous vous souvenez pas de cette période où toutes les séries et tous les films anglais ou japonais étaient traduits par des français et où dans les mots, genre, par exemple, je sais pas, Seiyar devenait Seiyar, ou alors Ken, ça devenait Robert, enfin, voilà, bah, c'est pareil.
Parce que moi j'ai pas eu la VF de Derek, donc.
Oui, voilà, la VF de Derek.
Warhammer, c'est la VF de Derek.
C'est ça, vous avez joué une version.
Bonjour Gus.
Bonjour Jean-Pierre. Voilà.
Et donc là, on part sur la quête.
Ah,
c'est important. Et c'est parce qu'en fait, ce moment, je pense que c'est symptomatique de ce. Enfin, en tout cas, de notre époque de jeu comme ça, qui était très participationniste. Où en gros, le MJ vient avec un scénar, et ben on va jouer le scénar. Voilà. Il a sa piste, aussi foireuse soit-elle. Il va falloir la suivre. Il y a un vieux mourant.
C'est ça ou rien ?
Il y a un vieux mourant qui nous donne une quête. Bon, on va écouter ce qu'il nous dit. Il y a un enfant qui a été enlevé, on va l'aider, même si on le connaît d'Inev, d'Indatan, et que c'est super dangereux, qu'il y a des dragons, des liches et des je sais pas quoi. Voilà. Et là, moi, ce que j'ai trouvé très très fort, c'est qu'il y en a eu deux des moments comme ça dans ce scénario. C'est-à-dire qu'on a récupéré sa cassette, on l'a fait brûler comme il a dit, on n'a pas regardé dedans, on a hésité, hein. Franchement, c'était tentant, hein. C'était ouais, un one shot.
Des shift molles, c'est tout.
Ouais, t'as vu la gueule qu'il avait ?
Et là, on se retrouve, on a trouvé chez lui une carte des égouts. Mais pourquoi on irait explorer les égouts ?
Il y avait une Oui, d'accord.
Pourquoi ?
En fait, attendez qu'on ouvre la cassette pour découvrir qu'il y avait des pièces d'or dedans. Être
non,
tout
pas particulièrement, non. Si ce que vous avez fait, c'était tout à fait envisageable. Ils ont donc la cassette, il leur avait dit brûlez-la. Et donc, ils sont allés à l'endroit où le type s'était fait choper par les flagellants. Ils se disent ils sont en train d'allumer un bûcher. Bah, on va aider à alimenter le bûcher. Donc, ils ont balancé la cassette dedans.
En bois, ouais.
Dans son propre bûcher. Et ils nous avaient demandé de la faire brûler. Donc
sans l'ouvrir, bien, donc, voilà. sans connaître le contenu pourri qui était dedans.
Ils ont tenu la promesse.
Ils ont fait la promesse.
Ils ont fait la
promesse. C'est ça. Et on a crié au bûcher. Pour qu'il parce qu'ils voulaient pas allumer le bûcher en plus. Nous, on apprend que le
gars. De bûcher, toi.
Non, mais c'est ça, voilà, au bûcher. Non, mais c'est ça.
Il nous fait poireauter, genre. Il y avait tout ce bon bois.
Ils chopent un gars plein de tentacules et tout, et ils te font traîner. Oui, tout ça, hérétique, on va finir.
C'est comme le. C'est comme le trône de fer. Winter is coming, hein, mais pas maintenant, hein, parce qu'on a
dans trois saisons.
Donc nous, on était là, obligés de crier, ouais, coupable au bûcher satanique. Et bon, bah voilà.
Ils étaient plus motivés que les flagellants.
Ah, bah complètement. Ouais. Bon, nous, on avait une cassette maudite sur nous, on voulait pas se faire pécho avec.
Le mec, il le brûle. Voilà, on se débarrasse de la cassette.
Il récupère la galette de métal. Non, mais attends, pourri, mais
avant ça même, on a une carte.
Bon. Non, mieux aussi, vous êtes blessé, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez acheter des
potions de soins, oui, c'est ça.
Non, des PV à.
Des PV à l'église.
À Chalia.
Ça coûte super cher, ça coûte une vache. Putain, une vache pour un. Non, mais c'est ça ! Tout coûte une vache dans ce monde.
Moi, j'ai joué comme je me souviens.
On n'est pas une vache près en même temps.
Ben là, si, hein, moi, des vaches, j'en avais
4 8. 4 PV, quoi. Une couronne, c'est voilà.
4 PV, une couronne une vache. D'or.
Ouais, faut savoir qu'aussi, en termes de système, les PV, les blessures, c'est pas vraiment des PV, c'est pas hyper grave si t'es à 1. Le jeu, voilà, même si t'es à zéro, le jeu, c'est qu'après il y a des critiques.
J'ai perdu au jeu.
Voilà, c'est qu'après il y a des critiques. Donc c'est quand tu te prends des critiques que tu commences à être emmerdé. Et un critique à 1, t'as un bras endolori. C'est sûr. Pas la mort. Donc en fait, en théorie, avoir perdu 6 blessures, bah je crois que tu régénères un truc du genre 1 par heure, non ?
C'est 1 quand t'es en dessous de 3. Attends, Shadow, tu parles en dehors des micros.
Ouais, Shadow dit qu'il pense que c'est que tu récupères 1 PV par heure quand t'es en dessous de 3 ou par jour, je sais plus, quand t'es en dessous d'un certain seuil. Bref, plus t'es blessé, plus c'est chiant. Mais globalement, on a payé cher pour récupérer quelques PV. Hein, si on a une nuit de sommeil, et c'était bon. Quoi.
Mmh. Ouais, c'est aussi parce qu'on ne jouait pas en campagne et que nos 3 pauvres couronnes d'or, à part récupérer des PV, voilà, ça ne servait pas à grand chose. Donc on allait soigner au plus simple. Et puis après,
on s'est dit. À ce moment-là, moi, ce que j'attendais, c'est que Fabien nous dise un PNJ vient vous voir, vous gagnez 100 d'XP. Enfin, soit la fin de scénar, soit un truc. Et là, bon, il n'y a rien qui vient. ouais, il y a rien qui est rien. On a une carte. Bon, on a une carte, c'est les égouts. Bah on va y aller, c'est parti. On n'est pas à se risquer la vie une fois de plus ou de moins. Hein.
Ouais, c'était ça où regarder un nain sur un poney, j'étais des haches. Donc, ouais, bon, bah ça. Voilà. Quoi, du coup, les égouts, ça nous a paru sympa. Quoi.
Moi, j'ai passé un bon moment.
Ah non, mais attends, aussi, ça m'a fait ma Madeleine de Proust. J'ai eu l'impression de redevenir jeune.
Mais nous aussi, hein, et avec toutes les répliques à la con que ça.
Mmh. À ce propos, moi, j'ai vu des.
T'as vu des ados de 14 ans.
Bah, en fait, non, j'ai découvert des comportements de joueurs de 14 ans que je réutiliserai d'ailleurs sur mes futures tables de jeunes. Voilà.
Parce que c'est vrai qu'on.
Mais par exemple, je ne savais pas que vous alliez voir les scénarios de vos MJ quand les MJ quittaient la pièce, quoi. Ah
là, ça, c'était énorme, c'est-à-dire que Fabien quitte la pièce et là, Adrien et moi quasiment en même temps. Oh putain, il a laissé son scénar. Adrien l'aurait fait, moi je l'ai empêché.
Maxime
moi.
A une morale.
Ouais, j'ai vraiment dit, on va quand même pas pousser le vice jusque là, quoi.
C'est le plus vieux d'entre nous, hein, ça se sent. Hmm.
Oui, vachement. Putain, j'avoue que c'est la tentation.
C'est peut-être moi le plus vieux d'entre nous.
Non, c'est Shadow, non ?
Non, c'est Shadow.
C'est Shadow le vieux.
Il a 40 ans.
Il n'importe quoi déjà. Pas encore. Et puis voilà, l'important c'est dans la tête. Hein. Non, oui, les actions un peu étranges que l'on fait quand on est ado, bah voilà, on en a eu 2-3. Bon, bah. Le premier PNJ, on l'a laissé partir. C'est le vrai. Deuxième, on lui a laissé aucune chance. Voilà, non, mais il faut être franc.
En même temps, il n'avait pas de nom. Donc
c'était un no-name.
Un mec qui surveillait la planque du.
Où il y avait la cassette, hein, chez le corrompu, enfin le
mutant.
Le mutant.
Le mec se barre, on ne sait pas si c'est
parce qu'il se barre parce qu'il nous a vu et voilà. Et puis là, bon, on se dit, bah lui on va le tuer.
Ouais, puis un mec qui fuit, tu vois. Ouais, t'as besoin de tirer dessus 40 flèches et 3 haches parce que tout le monde rate. Enfin, honnêtement, on aurait tué la moitié
deux flèches
de la ville
dans le dos.
Les gens passaient à côté, quoi. Hein.
Oh là Shadow, il commence bam 0-1, quoi.
Oui,
flac. Bim. Tu sais, moi, je lance une hache. Ping. Et merde. Et la flouc. Bon, et après, on l'a dépouillé comme des gros sacs.
Ben oui, bien sûr, tu tues un mec en
c'est ça, on le tue, et direct, on le fouille. Et il a une armure, vas-y, prends l'armure et tout, on s'équipe, et puis après, on va chez le mutant, et on laisse le corps dans la rue, quoi.
C'était le coup de... Pardon.
Non, mais c'est vrai, on est parti en laissant le cadavre en plein milieu de la rue, à poil, en slip, on a tout pris.
Un truc que je vais oublier aussi, c'est le coup de... Je récupère ton arme de base, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que ça se revend 10 couronnes d'or.
Ben oui.
Alors ça vaut 10 couronnes d'or, c'est vrai que tu le revends en général à un dixième du prix ou la moitié.
Oui, mais enfin, de toute façon, tu revends quoi. Au début, vraiment pousser le vice pour respecter.
Pièce,
voilà, c'est ça.
Oh, je trouve ça génial, vraiment. Ces comportements vraiment qu'on pourrait trouver dans des RPG de jeux vidéo.
Ah oui,
en fait.
Ça. Le mec, comme dans Hitman, il finit en slip.
Et ce qui est marrant aussi, c'est que si tu veux,
hier, Natacha a eu la réflexion. Ah mais les cadavres, ils disparaissent pas. Ça veut dire qu'il est encore là-bas.
Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est des trucs qui s'oublient pas d'une certaine manière.
Mais non.
T'as beau faire tous les JDR les plus intello du monde. Ouais. Au fond de toi, tu manges toujours des chips et de la pizza.
Et oui, c'est clair.
Comme depuis tes 15 ans.
Il y a deux comportements d'ado qui nous étaient systématiques que je n'ai pas retrouvé ici. Un, c'était faire brûler quelque chose.
Ouais, on a brûlé.
Attends,
mais tu vois, typiquement, en fuyant de la maison, on aurait foutu le feu à la baraque pour être sûr d'être pas être poursuivi.
Il y avait la tenancière, elle m'a fait un bisou.
Ouais, mais enfin, on l'aurait pas fait un bisou. Et la deuxième chose, c'était que mes joueurs avaient tendance à, je pense, essayer de faire dans le jeu de rôle ce qu'ils n'arrivaient pas à faire en vrai niveau draguer. Sexuel. Non, ça, c'était pas draguer, non. Non, on va pas en dire beaucoup plus, mais c'était crade.
Mais tout le monde a compris.
Moi, j'ai jamais eu ça.
Maxime. Non, moi aussi. Soit Adrien, mais alors à 200%.
C'était pas temporisé par la présence féminine à la table, par exemple
Mais non, mais nous.
Moi, j'ai jamais fait ça.
C'est pas forcément du viol, si tu veux.
Non, pas du viol, mais voilà, ça allait au sexe.
On la drague et puis on couche parce que voilà.
C'est ça.
Je fais un jet de dés et c'est parti, quoi.
Ouais, si j'ai eu ce comportement une ou deux fois, mais c'était vite plus. Con qu'autre chose quoi. Enfin jamais aimé regarder du porno entre copains moi donc bon
Ah bah voilà c'est pour ça.
moi non mais deux de mes joueurs le faisaient régulièrement donc ces deux-là s'entretenaient pas mal dans le truc.
Donc voilà.
Bon, bah, bref, on tout a ça pour ça dire que dans Warhammer, il y a un vrai côté régressif quand même.
Un vrai côté régressif.
C'est aussi pour ça qu'avec Adrien, on n'arrête pas de jouer à Cthulhu, si tu veux, Fabien. Ce que tu disais, là, le témoignage que tu fournissais tout de suite, où tu disais, non, mais on adore,
c'est
même
on peut nostalgique. Faire.
C'est un aspect nostalgique. C'est un aspect. Mais pas uniquement, alors, il y a du fun aussi.
Ce qu'il y a, c'est que je sais pas si c'est vraiment. Tu vois, tu dis, c'est Warhammer qui. Je sais pas si c'est vraiment Warhammer en soi.
Non,
si tu veux.
Non, ça, c'est notre comportement ado.
Si on redécouvrait Warhammer, simplement, c'est juste que ça nous renvoie à une une époque quoi, il y a tout un tas de délires qu'on avait à cette époque-là et
oui mais
ça,
regarde
ça les réactive.
Aujourd'hui en actualisant un peu la célébration de ça c'est Nealbuck. Alors je dis aujourd'hui, c'est vrai que Nealbuck ça commence à être un peu plus ancien mais aujourd'hui la célébration de ce petit côté régressif
Nealbuck moi je l'ai découvert au moment où on jouait comme ça.
Mais ah oui, d'accord, OK.
Je me souviens très bien après, quand on a découvert.
Mais regarde aujourd'hui ce que je veux dire c'est qu'il y a un jeu de plateau, un jeu de rôle qui célèbre en fait cette espèce de truc-là. Parce que vous, en fait, disons que dans la fiction, ce qui s'est passé, c'était très sérieux. Oh. Mais ce qui était rigolo, c'était le recul que vous aviez en tant que joueur.
Non, dans la fiction, c'était pas sérieux.
D'accord, comment dire ?
On pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mettent...
Mais Warhammer est un monde inconséquent.
Oui.
C'est un monde complètement inconséquent, Warhammer. Il y a des gens qui meurent toutes les 3 secondes. Tout le monde a une arme sur soi. L'espérance de vie, elle est de 30 ans maximum.
T'es pas de flic. T'es meunier. Tu mets ton grain à moudre dans le moulin. Tu jettes tes dés. Tu fais 99 ou 100. C'est toi qui passes dans le moulin. Enfin, non, mais t'es meunier. T'as une chance sur 50 de mourir à chaque fois que tu fais de la farine.
D'où ma réaction de. Ah bon, mais les cadavres, ils disparaissent pas?
Oui, je comprends. Parce que là, il y en a partout, sinon quoi.
C'est vrai que la bonne direct du. Il a fait un sang, il s'est auto-tué avec son arme. Voilà, le coup de. Un scaven, il se retourne, il veut nous tirer dessus.
il se tue
tout seul parce qu'il a fait un sang.
Contre lui.
Je sais pas dans quelle mesure. Ce qu'on a joué était pas une forme de caricature.
Tout le monde joue comme ça. Tout le monde joue comme ça, Fabien.
Il y a une part de caricature, c'est-à-dire le fait, par exemple, de blaguer sur le fait qu'on allait tuer ce garde, mais on peut toujours, dans cette fiction-là, y trouver une cohérence. C'est-à-dire qu'effectivement, on a été vu par ce garde. Il y a peut-être des renforts qui vont arriver. On l'a pas buté sans raison. Alors c'était ridicule parce qu'on a dépensé 300 munitions.
Attendez là, je voudrais tout de suite rassurer Fabien. Moi j'ai lu les campagnes du commerce par exemple de l'œil noir récemment parce que justement. Alors je parle de l'œil noir, le vieil œil noir. Hein.
Oui,
mais c'était ça.
Ce qui pose problème, c'était pas vraiment la campagne elle-même, c'est les comportements de joueurs là dont on dit.
Mais non, mais justement,
moi,
attends,
que ce qui est le
jeu de rôle,
c'est pas tellement
le jeu de rôle.
Attends, tu veux que je te fasse une analyse de système ? Pour évoluer de carrière dans Warhammer, il faut avoir les dotations de la carrière suivante. Donc. Il faut looter comme un gros porc, non-stop. Oui. Donc, il faut buter tout ce qui passe pour le récupérer.
Parce que surtout, il y a des métiers qui ont des objets dont ils ont besoin qui sont complètement à la con. Hein. Enfin, honnêtement, le pilleur de tombe, j'aimerais bien savoir ce qu'il a comme objet. Hein.
Mais non, mais tu vois, je parle des carrières avancées.
Oui, pardon,
les carrières avancées.
Le trafiquant de cadavres. Il a combien de cadavres et une morgue ?
Le trafiquant de cadavres, c'est pas une. Il me semble.
Si, c'est une avancée.
Juste pour te dire.
Enfin, voilà, quoi, c'est un jeu qui encourage ce genre de conneries. Oui. Je veux dire, tout se base sur des dotations et sur ce que t'as.
Moi, j'ai vu des salles, par exemple, dans certains jeux de rôle, qui étaient avec un coffre au milieu. Tu ouvres le coffre, il y a des pièces d'or dedans, comme dans un RPG japonais, comme dans Final Fantasy VII, ou alors que tu es en train de faire péter une usine atomique, il y a des coffres.
Ne crachons pas trop dans la soupe de ce qu'on
non,
a aimé,
mais non, mais non, mais non, mais attends. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pas une caricature, c'est une époque. C'est une époque. C'est pas une
c'est
caricature.
C'est une époque aussi pour nous, tu vois. Je veux dire, tout le monde jouait pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire.
Mais non, mais bien.
Je connais
non,
mais qui joue autrement. Hein.
Enfin, on a une campagne de Warhammer, on la joue sérieusement. On essaye de faire attention à ce qu'on fait.
Je suis d'accord,
enfin, voilà.
Tu lootes les cadavres.
Mais on loot tous les cadavres, on est d'accord. Mais le corps, on l'aurait pas laissé traîner, on l'aurait sûrement pas tué, le gars, etc.
C'est vrai qu'on a joué pas du tout prudent, on faisait un peu n'importe quoi. Mais il y a quand même plein d'éléments qu'on aurait fait en vrai. Typiquement, on trouve la carte, on va dans les égouts sans raison.
Ça, on l'aurait fait.
Ça, on l'aurait fait, évidemment.
Moi, je me souviens de Terreur à Talabane.
Parce qu'il s'enfuit. Ben oui, il risque de parler de nous, on n'a pas été discret.
Oui, mais peut-être qu'on lui aurait lancé un sort ou un truc, on l'aurait suivi. Mais là, on était dans l'état d'esprit de se dire, allez, venez, on revient quand on était ado et on va faire n'importe quoi. Et ouais, c'était ça qui était intéressant, et c'est ça qui nous a amusé.
Ah, mais moi, on s'auto-caricature pas.
Là, je suis pas d'accord, parce que moi, j'ai jamais eu de connaissance de Warhammer, j'ai pas cet affect à Warhammer. Encore une fois, moi, c'est Magic, mon référentiel. Et j'ai fait la campagne Terreur à Talabheim, c'était pas quand j'étais ado, c'était il y a 7 ans, puisque c'était à l'époque où Ben Guérant venait à la barreau, donc c'était en souvenez-vous, les premiers podcasts sur Play, Ben Guérant est là, et ben après on jouait à Warhammer, donc voilà, c'est pas si vieux que ça, et ben je suis désolé, mais on a fait, la description de votre scénario, c'est ce qu'on a joué, et alors, il y a une différence entre ce qui se passait dans la fiction qui était très intéressant, il y avait des meurtres, il y avait du vol, il y avait des trucs comme ça, et puis la manière dont tant que joueurs autour de la table, on riait, on s'amusait. C'est là qu'il y a une différenciation entre les joueurs qui se marrent, qui prennent du recul par rapport au contenu fictionnel créé, et puis...
Et peut-être à leur propre comportement aussi.
C'était trop drôle, quoi. Et ça, on l'a eu. Et Ben Guérin, je tiens à préciser que c'est non seulement un très 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 bon MJ de Warhammer, mais il prend la chose très au sérieux. Moi, j'ai fait des veillées avec Bender où on a parlé de Warhammer, il me faisait rêver. Enfin, il parle de ça avec des étoiles dans les yeux, c'est formidable. Donc, on a joué sérieusement. Pour autant, il y a ce côté, il y a ce double discours, il y a... Voilà, c'est là.
C'est vrai que je vais arrondir mes dires, mais dans notre campagne, je dis on joue très sérieusement, etc., mais il n'y a pas une partie où il n'y a pas quelque chose de complètement loufoque qui se passe, il n'y a pas un truc qui va nous faire marrer, qui va nous rester, quoi. Effectivement, notre campagne de Warhammer, il y a une vraie intrigue, des vrais personnages et tout, et à côté de ça, c'est quand même... assez absurde, quoi.
Et voilà, et c'est pas de la nostalgie d'enfance, c'est pas régressif, en tout cas pas dans mon cas, et moi c'est ce que j'ai vécu, voilà, et j'ai fait une campagne entière, donc je pense... Adrien, tu voulais parler avant que je me fasse un monologue.
Ouais, je voulais repartir sur un des trucs que t'avais dit. Ah oui, si, je voulais te poser la question, est-ce que dans votre groupe il n'y avait pas des joueurs qui eux avaient déjà beaucoup joué ou joué un peu à Warhammer ado, et que du coup auraient importé leur habitude de jeu et te l'auraient transmise?
Alors, pas le jeu de rôle. Le jeu de figurines, énormément, mais pas le jeu de rôle.
D'accord.
On était tous des novices du jeu de rôle, pour le coup, vraiment.
Okay.
Et en plus, on avait choisi nos classes et on avait des persos qui étaient extrêmement classe. Karim était mon frangin, on avait une relation particulière, un peu à la Astérix et Obélix, mais en moins caricatural.
Vous ratiez quand même deux actions sur trois.
Et en tout autant bicurieux.
Tout en tant quoi?
En tout en étant autant bicurieux que Astérix et Obélix.
Bicurieux.
Avec une petite tension?
Non, parce qu'on était frères.
Grossophobie, racisme, biphobie.
Non, mais par contre, c'est vrai qu'on ratait beaucoup d'actions, mais ça donnait lieu à beaucoup de jeux.
J'ai pas fait de jugement de valeur.
Non, mais arrêtez de voir, c'est... Donc je disais que...
Donc ils n'ont pas importé leurs habitudes de jeu.
Non, je pense vraiment pas. Il y avait un joueur qui était un peu borderline, parce qu'il fumait beaucoup, et à la fin, il était un petit peu défoncé parfois au cours de ses parties, et donc il pouvait parfois sortir des trucs un peu spé, mais honnêtement, on a toujours joué sérieux, il y a eu des moments très forts, mais il y avait ce recul qu'on n'a pas, par exemple, dans d'autres jeux de rôle, par exemple dans des jeux comme Shadowrun qu'on a fait avec les mêmes personnes, il n'y a jamais eu ce recul où on était mort de rire. Non, il y avait du sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, dans Warhammer, l'univers est caricatural. L'univers est caricatural. Quand on parle des Space Marines qui ont 18 poumons, 3 cerveaux, un qui dort pendant que... Non, moi je suis désolé, mais c'est l'univers que je connais le mieux. Mais même quand on dit qu'une
petite fille... Les fanatiques de Sigmar, les mecs, ils se baladent avec des locks et des fouets et des chaînes. Quoi.
Quand on dit que la petite fille, elle a la robe et le couteau, enfin ça c'est dans la base que tu tripotes, là, Fabien.
Je suis pas sûr, non.
Je veux dire, moi je l'ai lu ça, donc quelque part. Et je veux dire, c'est quand même... on est dans la caricature, tout est caricatural dans Warhammer. Donc il faut pas s'attendre à des choses... Après, je suis sûr qu'on peut faire des rillettes avec ce jeu et en faire un truc extraordinaire, mais en attendant, voilà, c'est...
Oui, il y a un autre point dont j'aimerais parler, c'est donc, on rentre dans les égouts, on explore les égouts, et là, en fait, je suis tombé, je sais pas comment...
Attends, déjà, rentré devant les égouts, je veux juste préciser qu'on a eu la scène de jeu de rôle classique, j'arrive pas à ouvrir le cadenas, je lance les dés, moi j'y suis pas arrivé, et toi, j'y arrive pas, et toi, j'y arrive pas, et toi, j'y arrive pas, bah toi, bah je réessaye du coup, j'y arrive pas, et toi, bah je réessaye du coup, j'y arrive. Au bout d'une dizaine de lancers de dés.
Non, pas d'une dizaine.
Ça a été moins que ça.
Oui, mais c'était rigolo quoi, mais ça a pris quand même 6 lancers de dés à peu près. Ouais,
voilà. 4-5.
Le classique, t'as juste envie de dire, putain, MJ, tu veux vraiment qu'on fasse des dés, de toute façon, on va y arriver au bout d'un moment quoi. Le truc cliché qu'au bout d'un moment. Merde quoi.
C'est le jeu qu'on doit pas rater, et tant qu'on le rate, on le refait.
C'est ça. C'est juste, ça a aucun intérêt fictionnel de le rater, à part de faire rigoler les gens autour de la table quoi.
Bah oui, mais c'est ça l'intérêt fictionnel.
L'intérêt il est là. C'est moi qui l'ouvre.
En fait, je sais pas. Tu vois, là, je me suis posé la question parce que là, c'est un moment.
C'est un jeu.
La première fois, Natacha essaye de l'ouvrir à coup de hache, donc en tapant sur la serrure avec la hache, et Fabien nous dit ça fait un gros clang. C'était en pleine nuit, je crois. Moi, je m'attendais à ce que des gardes débarquent. Enfin...
Ouais.
Bon, c'était peut-être pas dans le scénar. Donc...
Mais non, les gardes, ils étaient dans la forêt, on t'a dit.
Donc, le forgeron essaye à sa manière, puis chacun essaye à sa manière jusqu'à ce que ça fonctionne, effectivement.
Et là, dans les tunnels, on doit faire un test de discrétion. On est 4, on a tous 30 dans la compétence, dont certains qui ne l'ont pas, qui vont jeter à 15.
Il n'y a pas une règle comme quoi c'est celui qui a le plus qui peut... Non, mais il n'y a pas une histoire d'aide.
Dans certains jeux, pas là.
Non, pas là. Ah bon, pas, parce non. que moi, je crois qu'on appliquait cette règle-là dans
Warhammer.
Alors,
il y a peut-être des MJ qui font jeter le score le plus bas.
Seulement. Ah oui, c'est ça.
Mais c'est, oui, c'est pas ça, dans les règles, règle. Je crois.
C'est pas du tout une aide, en fait. C'est pire, je crois.
C'est une aide, parce que le fait que tout le monde le jette, même si le pire réussit et que tous les autres le ratent, ben, oui. ben voilà. Donc, bah, du coup, on rate, voilà, forcément. Et en fait, moi, là où je veux en venir, c'est qu'on arrive à une sorte de scène qui, pour moi, transcende tous les univers Warhammer. Et c'est, en fait, c'est un peu... comme la vision platonicienne dans le monde des idées, c'est un peu une idée en soi. c'est l'idée de la grotte avec les monstres, mais pas n'importe quel monstre, c'est, et pas n'importe quelle situation, c'est la grotte où il y a une activité, donc là c'était une sorte de frappe de pièces, mais moi j'ai vécu ça dans Dark Heresy, une usine où, je ne sais même pas ce qu'ils fabriquaient, une sorte d'usine de corrompus, mais on l'a vécu une autre fois dans Dark Heresy, où là c'était une usine où ils fabriquaient des bracelets pour les esclaves. À Warhammer, on l'a vu avec un truc d'alchimie, on l'a vu avec des... C'est toujours la grotte avec une activité illégale ou autre qui a lieu, des monstres, et parfois un gros monstre, et les joueurs qui débarquent en situation... surplombante, mais tout le temps la même, situation surplombante, comme ça ils ont une vue d'ensemble, ils voient la scène, et là c'est le qu'est-ce que vous faites. Et cette scène, mais pour moi elle découpe les réalités de Warhammer et elle est présente partout, quoi.
C'est la scène d'introduction d'Indiana Jones 3 de l'Ice Crusade, tu sais, où il arrive, il voit en surplomb les mineurs en train de... Et c'est pas un hasard. C'est vraiment, je suis d'accord avec Adrien, c'est une scène qu'on trouve dans... Je crois que le premier scénar de ma campagne de l'Œil Noir, c'est ça. Les joueurs, ils arrivent dans un égout et ils arrivent en surplomb d'une activité. Enfin,
je suis sûr que ça va revenir dans dans pas mal de livres dont vous êtes le héros aussi.
Ouais, je pense bien. Ouais. Ouais, tout à fait.
Mais en fait, ce qui est particulier dans Warhammer et c'est pareil dans Dark Heresy, c'est qu'en fait,
Adrien.
Ça a toujours lieu, enfin, quasiment toujours lieu dans la ville. Et ce qui est un peu aberrant, c'est que c'est un truc qui fait du bruit, qui est compliqué à installer, c'est pas discret et pourtant c'est là dans
et
Warhammer,
nous on le trouve en 5 minutes quoi. Enfin, on a fait un verrou, on a fait 10 mètres dans les égouts
dans Dark Heresy
un peu plus que ça,
bon allez 100 mètres et du non mais bon voilà.
Et ça me fait penser à toutes ces réflexions de Fly quand je fais des Zelda ou des trucs comme ça et qui me dit le maître du donjon pour aller pisser la nuit c'est pas pratique.
Dans Dark Heresy, dans n'importe quelle cité ruche, tu descends de 3 étages en dessous de là où les derniers gens habitent. Ok, c'est des zones abandonnées, mais enfin, et là il y a des putains d'usines pour tous les corrompus de la ville, enfin, et c'est tout le temps pareil. Et dans Warhammer, il manque vraiment un mec urbaniste qui réfléchisse un peu à son organisation, quoi. Ouais.
Ah, c'est
et
bon.
Et voilà, donc on les a défoncés.
Donc, en fait, on voit bien globalement.
On a essayé de fuir, mais en fuyant, on les a tués.
On voit bien globalement que, ok, d'accord, il y a un schéma typique de l'aventure qui, à force de répétition, devient caricature, devient un mème en fait, ce qu'on appelle un mème, et du coup qui provoque de l'humour autour de la table. Les joueurs rient beaucoup, mais n'empêche que ça reste de l'aventure et que c'est génial. Et ça c'est important à préciser aussi. Ça fait rêver malgré tout ces grottes. Enfin, moi je suis désolé, mais j'ai commencé encore une fois mon premier scénar de l'Œil Noir avec les enfants l'autre jour. On a joué. À cela, et ben, ça les a fait rêver, quoi. Les rats dans les égouts, j'ai fait ça exactement. Hein. C'est, ben, ça,
voilà, moi,
ça marche, ça fonctionne.
Voilà, c'est ça. Moi,
ça fonctionne. Et c'est disneyien, c'est presque des dessins.
Je ne veux pas donner l'impression de brûler ce que j'ai adoré, quoi.
Non, mais c'est pas du tout le cas. T'inquiète, ça sent bien.
Mais en fait, tout ce qu'on dit, au final, c'est une sorte de célébration.
Oui, complètement. Voilà.
Alors, on souligne les défauts, mais parce que, on
est un peu comme tu rigoles de toi-même quand t'es.
Ouais, c'est ça, on les connaît, ces défauts, on les a côtoyés tellement de temps.
Il y a quelque chose de très étrange dans Warhammer.
On les aime, ces défauts, d'une certaine façon.
Quelque chose de très étrange, quand même, dans Warhammer. Et qui fait qu'à mon avis, ça reste un petit peu comme Magic, une Madeleine de Proust qui dure dans le temps. Enfin, un truc qui dure dans le temps. C'est que, à côté de cet univers caricatural, il y a aussi quand même des histoires de grands personnages, des grands mythes en fait. Cet univers est parcouru de mythes. Si on prend rien que l'histoire de Nagash par exemple, dans l'univers de Warhammer Battle, moi je me souviens parce que je jouais les morts vivants quand j'étais jeune.
Pharaon, roi des tombes, ouais. Je précise pour les auditeurs parce que Nagash.
Et c'est l'inventeur de la nécromancie.
L'inventeur de la nécromancie, c'est ça, c'est génial. Il y a des grandes figures en fait mythologiques.
Il y avait Lamia, la première vampire aussi.
Et l'inventeur de la nécromando, c'est qui?
Mm-hmm. Très bien. La nécromanla, tout ça, la nécromunda plus tard, on a bien compris.
Et la nécromagnon, oui.
Nécromagnon, voilà, c'est bon. Donc, la nécronambour. C'est bon, maintenant on les a toutes faites. Natacha, je t'en prie.
Non, je pensais sur ce que tu disais sur les grands mythes, voilà, la profondeur de l'univers qui fait rêver et tout ça. C'est marrant parce que c'est un truc qu'on retrouve dans les jeunes qui débarquent en colo jeux de rôle et qui ont créé leur propre univers. Ils ont fait des pages, ils ont écrit des pages et des pages justement, je pense, pour retrouver cet esprit d'aventure et d'univers qui fait rêver.
Grands mythes.
Ouais, exactement.
C'est hyper important ça.
Et ça, effectivement, on le retrouve dans.
Adrien.
Je pense tous les gros jeux comme ça qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a cet univers tellement bouillonnant que on peut y jouer pendant des mois. C'est le cas de Donjons et Dragons, c'est le cas de ça, c'est le cas d'INS, c'est le cas de.
Ouais, mais par contre, moi, tu vois, aujourd'hui.
Des immortels.
Jamais, je me relance dans une campagne de Warhammer aujourd'hui. Moi, je l'ai fait. Ça m'a apporté quelque chose, beaucoup de rigolade.
C'est un truc pour.
Attends. Qu'est-ce que tu disais, Maxime?
Je dis plus jamais, je refais une campagne de Warhammer. C'est pas possible.
Parce qu'on est 3G, qu'on a plus le temps.
Je suis trop vieux.
Moi, je continue à jouer Warhammer avec. Mais enfin, c'est des copains que je connais depuis perpète, quoi. Donc, on a nos habitudes, on a.
Ouais, mais non, il y a tellement de jeux meilleurs, quoi, pour explorer ce que j'aime explorer.
Mais il y a dans cet univers, il y a cet embryon de personnages mythiques qui, moi, m'intéresse beaucoup, de figures allégoriques de certains concepts, de certaines idées, de la mort, les frères qui se trahissent. Il y a plein de choses très, très intéressantes.
C'est en fait, c'est des univers sur lesquels il y a plein de gens
qui ont écrit. Ouais.
Parfois des gens de talent qui ont écrit dessus.
Tout
et donc, parfois, ont ajouté des choses très intéressantes.
Ils ont tous amené
parfois aussi,
qui les touchent. Hein.
Voilà. Et parfois, ils ont aussi amené des trucs un peu.
Puis moi, ça me fait penser à l'effet un peu comics, tu sais, où chaque auteur du jeu a repris des personnages à sa sauce, les a retravaillés.
Pour l'univers de 40 000, Dan Abnett, par exemple, il s'est réapproprié l'Inquisition, il s'est réapproprié certains éléments de.
Kaizenor, Neravnor, c'est ça?
Ouais, c'est ça, qui font que ça donne une profondeur supérieure.
Donc tu vois, on peut pas juste sourire de cet univers. On peut pas juste dire c'est drôle. Il y a aussi quelque chose derrière.
Je disais au début que.
Qui est intéressant.
Je pense que je disais que le nain, enfin Gimli comme il est représenté dans les films de Peter Jackson, il y a un côté gros nain balourd. Je pense que Warhammer
a joué son rôle
un petit peu avec
dans cette mythologie, cette vision du nain.
Peut-être que je me trompe, sans doute je me trompe certainement, mais en tout cas Warhammer a aussi formé nos imaginaires à sa propre manière.
Ça a façonné Tolkien
surtout.
Alors le chaos par exemple, je pense que c'est vraiment quelque chose que Warhammer a formé plus que c'est vraiment un truc qu'on partage tous si tu veux. Mais qui n'existe pas vraiment, ou pas de façon aussi poussée, ou pas de façon aussi développée dans d'autres références.
Ça fait partie de la culture commune. Hein. Je veux dire, il y a plein. Enfin, je veux dire, même des gens qui n'ont pas forcément joué à Warhammer, tu dis du sang pour le dieu du sang. T'as 80% des gens dans une pièce qui comprennent quoi.
Pour l'empereur.
Voilà, pour l'empereur, du crâne pour le trône de crâne.
Est-ce que Warhammer, c'est pas quelque part ce qui a popularisé l'univers de Tolkien, et je parle bien de populariser, je dis pas de démocratiser, populariser, c'est-à-dire rendu populaire au sens, tu vois, avec toutes les caricatures que ça comporte.
Je pense que ça a rendu le visuel de Tolkien populaire, parce qu'il n'y a pas tant de monde qui rentrait dans les boutiques, mais il y a beaucoup de monde qui pouvait passer devant. Et je pense que l'image.
C'est-à-dire que le fait que en fait, tout le monde passait devant un Games Workshop et tout le monde avait cette image des petites armées, des petites figurines. Ouais.
C'est possible.
Parce que des gens.
C'est vrai qu'en général, par contre, tu parles de Warhammer, même à des gens qui n'ont jamais vu, tu dis des petites figurines avec lesquelles on se déplace et des armées. Et là, ils font ah oui.
Une boutique pas loin de chez moi.
Voilà, il y avait une boutique pas loin de chez moi. Je voyais déjà. Alors parce que quand j'étais petit, que j'ai commencé, les adultes me disaient ah les soldats de plomb à mon époque. Et plus j'ai grandi et plus les gens, au lieu de dire ah les soldats de plomb, ils disaient oui je connais. Il y a mon petit cousin, il y a mon petit neveu qui en fait.
Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Le neveu, ça c'est un truc que t'entends tout le temps. Ouais.
Voilà, il y a machin qui en fait. Moi je suis tombé dedans à cause de mon grand cousin qui avait 6 ans de plus que moi et que quand on allait chez lui, on trouvait des figurines dans les placards. Il voulait pas qu'on y touche.
C'est bizarre.
Tu m'étonnes, t'as 7-8 ans, tu as pas envie que tes petits cousins. Enfin, lui il avait 13 ans, t'as pas envie que tes petits cousins ils touchent à ça. Quoi.
Surtout Gamers Workshop. Surtout le prix, il fallait se vendre à un bras pour acheter des figurines.
Ah lui ça allait, mais. Ouais, n'empêche que
putain,
voilà
c'est
quoi.
Cher hein. pour rassembler des points d'armée, fallait aligner les billets.
Il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir hein, quand on parle de la force de pérennité de ce jeu-là, de pourquoi ça peut durer si longtemps. Il y a aussi un élément qui est très très important dans le game design au final, c'est sur comment progressent les personnages et comment c'est présenté aux joueurs. Dans le bouquin, donc, comme disait Adrien tout à l'heure, il y a donc des métiers qu'on va avoir au début, mais après il y a des métiers avancés. Et l'évolution du personnage, c'est explorer son métier et puis évoluer vers un métier avancé. Et donc avec le choix. Donc c'est-à-dire un mercenaire, il peut évoluer vers capitaine, vers brigand, vers bandit de grand chemin. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs. Et donc dès que tu vois ton métier, moi je sais que la première chose que je faisais, c'était me projeter dans quel sera mon métier que je vois avoir plus tard.
Pour les joueurs, il y a beaucoup de rêves en fait.
Ouais, c'est ça. Et tu vois la liste des caractères que tu peux augmenter, parce qu'en fait, l'XP tu la dépenses pas comme tu veux. Tu peux la dépenser dans une liste d'augmentations possibles liées à ton métier. Donc par exemple, un bourgeois, il va pouvoir augmenter sa compétence sociale, sa compétence d'intelligence, peut-être un peu ses points de vie, quelques trucs comme ça. Mais du coup, tu peux te faire ton plan d'avenir.
C'est clairement le jeu dans lequel j'ai passé des heures à la pause de midi au lycée à fantasmer sur les carrières futures, à regarder le temps que j'ai passé dans les pages de ce bouquin à regarder les carrières.
Tous les 15 jours vers septembre, je peux être prêtre, vers décembre, je peux être prêtre consacré.
Ça va complètement dans le sens que je disais tout à l'heure aussi des personnages mythiques. Les personnages mythiques sont là pour te dire « Regarde ce que tu vas devenir ». Moi, quand je jouais mes morts-vivants là, avec Nagash, je me disais « Je vais devenir Nagash ». J'étais pas dans le...
Moi, mes personnages mythiques, c'est même mes PJ. Mes PJ. Bon, aussi, parce que j'ai aucun jeu auquel j'ai autant joué que Warhammer.
Ouais, parce que t'as emmené tes PJ jusqu'à l'immortalité.
S'il y a bien 2-3 PJ dont je me souviens dans ma vie, c'est mes PJ de Warhammer. Ouais, c'est clair.
Parce que moi, j'ai fait ça à INS. C'est difficile, pareil. Il y a une similitude dans INS. Dans INS, t'as le statut de grade. Et pour passer des grades, t'as aussi des besoins de...
Mais c'est ça l'aventure, c'est de sentir ses progrès, de sentir qu'on peut aller plus loin.
Et c'est pas seulement le fait de sentir qu'on peut aller plus loin, c'est qu'en fait on est déjà l'objectif en vue qui est écrit quelque part. Parce que dans Sens par exemple, il n'y a pas de progression en termes de carrière ou de grade. Enfin, il y en a mais elle n'est pas écrite dessus au début. Il n'y a pas, par exemple, quand tu arrives à 70 en mort et 70 en cosmo, tu peux devenir général par exemple. Et là du coup les joueurs auraient une sorte d'objectif de oh, putain si je progresse dans ce sens là je peux faire ça, et donc ça te tire vers l'avant.
Je suis complètement d'accord, mais en fait le truc c'est que dans Warhammer il y a une vision positiviste, c'est à dire que tu es de plus en plus fort et c'est objectivement le cas. Dans Sens, je veux laisser le doute. C'est pas parce que t'es un gros bourrin, que t'as plein de death, que c'est forcément positif, tu vois. Je suis pas sûr que d'avoir 100% en mort, ce soit... Mais par contre, les personnages mythiques, immortels, etc., mais c'est quelque chose que j'ai complètement repompé de ces univers-là. Solipsis, Finomfinger, Nagash et les grands elfes sylvains, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est ça, c'est des mythes immortels, des personnages qui ponctuent avec des grosses histoires où tu découvres au fil des bouquins.
Et le truc, c'est qu'au début du jeu, ces gens-là, t'es complètement en dessous d'eux.
C'est ça.
Tu les regardes avec admiration et tu fais pas le malin.
Ouais.
Et ton but, c'est que quand t'arrives à la fin de ta campagne,
c'est ça.
Là, t'arrives devant un prêtre Slan,
tu fais. Tout à fait.
Et tu sais, alors que. Au début du jeu, tu te contenterais de faire un test de déplacement silencieux le plus possible. Là, tu fais schlink.
Ouais.
Maintenant, ça va chier.
Mais oui. Et tu te dis, ouais, voilà, là, on est devenus vraiment les héros. Quoi.
À tel point qu'à la fin, je sais pas dans ta campagne, mais moi, à la fin, on lançait plus les CC, on lançait un des 10 ennemis que tu tues en un seul coup. Je veux dire, quand t'es un champion avec une armure de qualité exceptionnelle et une épée à deux mains de qualité exceptionnelle, faut même plus réfléchir. Tu es un héros de figurine de jeu de bataille. Tu vaux 200 points sur une bataille.
C'est génial,
donc tu massacres des ennemis par pelleté, quoi. C'est plus voilà. C'était, et à la fin, ça, c'est ça le plaisir. Moi, je me souviens d'un MJ qui à un moment nous faisait attaquer par une barge d'elfe noir, mais avec les règles. Il voulait absolument qu'on perde et qu'on se retrouve capturé, mais avec les règles, mon personnage pouvait les tenir, mais pendant un temps infini. Parce qu'avec les règles, ils pouvaient pas me faire mal, c'est con. Même à part une chance monstrueuse.
Alors, il y a quelque chose que je.
Et là, tu te sens puissant, quoi. Quand on est juste, il arrive pas à faire ce qu'il veut.
Vous posez la question, et puis peut-être ça va peut-être faire un espèce de mini troll, mais Warhammer, Donjons et Dragons, il y a un duel ou pas? Il y a à comparer. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il y a une rivalité entre les deux univers?
J'ai pas du tout le même passif avec Donjons et Dragons qu'avec Warhammer. Donc
d'accord. Parce que on... D'accord. Ouais, alors...
Je pense que tu tombes dans l'un ou dans l'autre, et c'est dur c'est de tomber dans ça, les deux. Ouais.
Ah, moi, j'ai un sentiment très étrange par rapport à Donjons et Dragons, Shadow. Je connais moins. Mais en fait, Donjons et Dragons, pour moi, c'est des créatures fantastiques, mais je ne connais pas les personnages mythiques de l'univers de Donjons et Dragons. Donc du coup, j'ai absolument pas cette approche-là, je ne le vois pas comme un concurrent ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est presque... C'est un jeu ludique de figurines, on se déplace dans un donjon, etc. Non, non, mais c'est la sensation que j'en ai. Alors que dans Warhammer, voilà, toutes les figures, elles sont là. Maintenant, quelqu'un qui a joué aux deux, qu'est-ce qu'il en dirait ? En tout cas, quand tu joues que à Warhammer, Donjons et Dragons, ne te paraît pas être un.
Il y a des gens qui jouent aux deux.
Je pense que souvent, les gens auront découvert l'un ou l'autre parce qu'en fait, il y a tellement d'investissements.
C'est ça, voilà.
C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons. Tout passe par des suppléments sans fin, d'univers parallèles, de machin.
Ouais, enfin...
Et il y a un fluff incroyable.
Ouais, moi, un de mes potes rôlistes, c'est que Fabien connaît, Eric. C'est un mec qui c'est celui qui m'a fait découvrir Warhammer JDR et qui a fait énormément de Donjons et Dragons aussi. Tu peux lui demander, mais je peux dire qu'à l'époque, le passe-temps au lycée, c'était de lire des bouquins de jeux de rôle et des suppléments. À chaque pause, c'est ce qu'on faisait. Le midi, c'est ce qu'on faisait. Le soir, c'est ce qu'on faisait chez nous. Ouais. On se les faisait tourner parce qu'il n'y en avait qu'un qui les avait. Mais évidemment qu'à la fin, tu t'enquilles des pages et des pages et des pages parce que tu passes ta vie à faire ça.
Moi, ce que j'avais l'impression, c'était que finalement, à un moment donné, je vais faire une grosse caricature, mais Donjons et Dragons, c'était le Medfan en jeu de rôle. Warhammer, c'était le Medfan en jeu de figues. Et Magic, c'était le Medfan en jeu de cartes. Et qu'en fait, tous ces jeux ont finalement fini par converger en faisant des produits dérivés. Il y a Magic qui a fait des jeux vidéo, Warhammer CMI.
Il y a un jeu de rôle Magic.
Il y a des tentatives de jeux de rôle Magic, mais il n'y en a pas d'officiel, je ne crois pas.
Ça, c'est étonnant, ça.
Ouais,
Magic n'a jamais réussi à se diversifier, que ce soit en jeu vidéo ou ailleurs.
C'est étonnant parce que. Il n'a pas voulu.
S'il a essayé, il y a plein de versions de jeux vidéo Magic.
Ils n'ont pas voulu aller suffisamment loin.
X y arrive très bien, par contre, ils l'ont fait, ça marche.
Il y a eu une expérience de Magic, d'un jeu vidéo de.
1996, le jeu vidéo Microprose.
Où tu te baladais et tu récupérais des cartes. Ouais, exactement. Etc. Mais c'était une tentative.
C'était pas une tentative. C'était un énorme succès, une grosse réussite.
Le problème.
Aujourd'hui encore, il est valable.
Le problème, c'est que, en fait, Magic a fait le calcul qu'un jeu vidéo, tu le vends un exemplaire. Tandis que la planche à billets de la carte papier,
j'en suis sûr.
C'est infini.
Ce que dit Adrien,
le seul jeu vidéo Magic qui fonctionne et qu'ils entretiennent vraiment, c'est le jeu vidéo où en gros tu payes les cartes comme si c'était du papier et tu joues sans IA.
Celui où t'es limité aussi. En fait, ils te donnent t'as un pool de cartes qui va être de 20 000.
Ouais,
mais t'as
ça.
Pas plus de. Enfin, ouais, 20 000, j'ai n'importe quoi.
Mais là, c'est un jeu où il y a une petite IA et un petit.
Voilà, et en fait, t'as des jeux.
Mais c'est très limité.
C'est extrêmement limité.
Le seul jeu qui reproduit vraiment Magic, c'est un jeu qui, en fait, c'est juste du Magic via écran. Tu peux pas jouer contre une IA, c'est que du joueur contre joueur. Et comme si tu allais chez ton pote.
Qu'un jeu vidéo comme Chandalar aujourd'hui.
Ils ont lancé une application qui a rien à voir avec le jeu de cartes Magic. Aujourd'hui, il y a une application. Enfin, il y a un jeu sur téléphone. Magic Card.
Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein. Sur PlayStation, ils avaient sorti un jeu vidéo dans l'univers de Magic qui s'inspirait vaguement des cartes. Mais attendez, c'est pas
ils
le podcast
sorti un
sur
jeu
Magic.
De plateau.
Mais tout ça pour vous dire que je pense que voilà, il y avait cette polarité là. Il y avait D&D, ces jeux de rôle, Warhammer, ces jeux de figues, et voilà. Et donc en fonction de comment en fait on est rentré dans les mondes de l'imaginaire. Moi, j'y suis rentré à travers le jeu de cartes. Moi, mon référentiel des personnages mythiques, c'est Magic. Vous y êtes rentré via Warhammer et vous voilà avec le jeu de rôle Warhammer. Fabien, je sens poindre le sommeil.
Ça fait un moment que j'ai déconnecté du podcast.
Hein. Il est mort. Ok, bon, d'accord.
Désolé.
On va lui mettre ses bandelettes et le mettre dans sa pyramide.
Ouais, je suis très fatigué.
Très bien. Bon, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur le jeu de rôle Warhammer, là?
C'était
non.
Bien et ça m'a fait plaisir de me refaire ma petite Madeleine de Proust.
Ouais.
Je suis d'habitude très hostile à la nostalgie, en tout cas.
S'il y avait une réédition, tu l'achèterais pas. Parce que ce qui te fait plaisir, c'est ce bouquin-là. C'est la V2, ça, ouais. C'est de bouquiner ton vieux bouquin. C'est pas de reprendre.
D'ailleurs, j'ai pas acheté la V3, en fait.
Ouais, qui est une très mauvaise pub et je l'ai jamais acheté. Aucun de mes copains, je crois. Donc voilà, c'est une Madeleine de Proust agréable.
Une fois de temps à autre, pourquoi pas. Et j'ai. Ouais, c'est.
En fait,
je renie pas ce que j'ai aimé.
C'est pas contre la nostalgie que tu te positionnes généralement.
C'est contre l'utilisation financière.
C'est plutôt
contre
la vision rétrograde, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vend du jeu de rôle ancien aujourd'hui, donc en quelque sorte, on fait du rétro-pédalage, tu vois. On pourrait faire tellement mieux et on vend...
Parfois, j'ai le sentiment que oui, on pourrait reprendre des vieilles gloires et les pousser vers le haut, tu vois.
Ce qu'on appellerait des reboots dans le monde du jeu.
Vraiment,
pas une réédition.
En les mettant au carré, en leur donnant une dimension, tu vois, qu'elles n'avaient pas jusque-là, et pas simplement...
C'est ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du reboot, quoi. C'est-à-dire, tu réexplores un univers, mais avec de nouvelles mécaniques, avec la modernité, enfin, tout ce que le jeu de rôle moderne a inventé. Ouais, et surtout, tu l'explores d'un certain point de vue, maintenant. Tu vois, le système te pousserait à explorer certains aspects de l'univers de Warhammer. La violence, par exemple, la violence de masse, la manière dont la masse est traitée, par exemple. Tu vois, c'est des thématiques dans Warhammer que je trouve intéressantes.
Mais en fait, si tu quittes la vision du héros...
Il
donne un exemple.
Je te donnais juste un exemple.
Oui, bien sûr.
On pourrait traiter de l'horreur dans Warhammer aussi, à travers le chaos et tout ça, hein, tu sais. J'aurais pu citer cet exemple-là.
En fait,
c'est plus de l'aventure. Oui.
C'est plus de l'aventure, et Warhammer, c'est de l'aventure avant tout.
Bien sûr.
Par
évidemment.
Le figurine, par le jeu...
Donc voilà, moi, évidemment. C'était ma Madeleine. Merci.
Merci, Fabien, d'être venu nous présenter ta Madeleine. C'est un peu bizarre, mais voilà, je l'ai dit, avec Shadow, merci Maxime, merci Natacha, merci Adrien de m'avoir fait beaucoup rire en me racontant tout ce que vous avez fait. Ça m'a rappelé évidemment mes propres campagnes de Warhammer, et notamment celle de la terreur à Talavheim. Merci
nuit,
à tous, bonne nuit.
Affûtez bien vos
âges. Jouez bien.